Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans quelques minutes, c'est le Motor Show qui vous est présenté par Mathieu. Et j'espère que vous êtes en pleine forme et au taquet parce que je vous assure, Mathieu a préparé l'embrayage et on va vous faire vivre une soirée extraordinaire. Avec évidemment le Flashport qui vous est animé avec Xavier et moi-même juste avant. Xavier que je salue, bonsoir.
Bonsoir Chris, bonsoir tout le monde, ça va?
Bah, la super forme évidemment, on va retrouver Mathieu, un invité exceptionnel aujourd'hui, comme tous les jeudis soirs vous le savez. N'hésitez évidemment pas à débattre de l'actualité, on parlera notamment de Formule 1 tout à l'heure durant l'émission. On va parler de Flashport, donc c'est-à-dire l'actualité des sports en 15 minutes, avec notamment quelques résultats significatifs. Sachez que le RC Cannes a subi la première défaite de la saison en Europe en quart de finale aller de la Ligue des Champions. On parle évidemment de volleyball chez les dames bien sûr. Défaite sur le parquet du tenant du titre, le Gunes Istanbul, et sur un score sévère, 3-7 à 0, 25-23, 25-21 et 25-11. On va parler aussi des Jeux Olympiques. Je vous signale que le porte-drapeau de la délégation française, on a beaucoup parlé dans l'actualité ces derniers jours, le porte-drapeau de la délégation française pour les Olympiques de Londres sera présenté le 10 juin prochain, et non le 9 comme c'était prévu initialement, lors de la finale messieurs des internationaux de France de tennis. Ce sera donc durant la finale à Roland-Garros. C'était dans le rôle à Pékin en 2008 que Tony Estanguet, il était donc le porte-drapeau, tu te souviens hein, sans doute Xavier de cette délégation, et c'est à ce moment-là, donc durant la finale de Roland-Garros, qui remettra symboliquement le drapeau à son successeur.
C'est qui le favori tu penses toi?
Ah bah le favori, bah il y a deux noms qui se dégagent, on pense à Teddy Riner et il y a évidemment Tony Parker qui veut faire un peu un lobby autour de son nom, mais ça a créé d'ailleurs un scandale, hein, parce que Tony Parker a voulu le faire un peu à l'américaine en se disant « je suis candidat », c'est quelque chose qui se faisait jamais avant, et Parker et Riner, c'est vraiment les deux grands favoris pour le porte-drapeau, pour succéder à Tony Estanguet. T'as une préférence entre les deux?
Ouais, Teddy Riner, ce serait pas mal, maintenant Tony Parker, ouais, c'est vrai que ça... Mais bon, moi je trouve que, tu sais, comme les JO, c'est... Bon, il y a du, c'est professionnel, mais c'est aussi ce qui représente un peu le sport pas connu amateur. C'est bien de mettre quelqu'un qui a des résultats dans un sport pas connu et qui est moins professionnel. Et je trouve que Tony Parker, ça fait un peu, entre guillemets, bling bling. Enfin, je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, c'est vrai. Et moi, je pense en plus qu'au niveau des résultats, mais il y a un double discours entre est-ce qu'on va mettre Tony Parker, qui est certes, hein, qui a une aura médiatique beaucoup plus importante, qui a un impact populaire beaucoup plus important dans le monde que Teddy Riner, mais en termes de résultats sportifs, Teddy Riner est quand même plus fort, je pense, que Tony Parker. Il a réalisé plus de choses. Il est champion du monde, multiple champion du monde dans sa catégorie. Il n'a pas ce côté invincible que peut avoir l'équipe de Tony Parker, notamment en équipe nationale française.
Ce qui joue peut-être contre lui, c'est l'âge. Bon, il a d'excellents résultats, Teddy Riner, mais il est très jeune, lui, je crois. Il a un peu plus de 20 ans, c'est ça, non?
Oui, très jeune. Et en même temps, il a un physique qui, à mon avis, ne lui permettra pas de faire carrière 10 ans. Donc, c'est peut-être ses avant-derniers Jeux Olympiques. Mais disons qu'il a encore peut-être deux Jeux Olympiques à faire au top. Hein, donc, les judokas, tu sais, c'est des carrières très très courtes.
On va parler. Parker, pour le coup, ça sera sûrement sa dernière chance parce que là, ça... après, je pense pas qu'il participera à un JO.
C'est vrai aussi. Mais la génération de l'équipe de France NBA n'est pas mal. Justement, parlons la génération française avec beaucoup de joueurs en NBA. Tony Parker connaît sans doute Joakim Noah, le fils de vous savez qui. Joakim Noah qui a réalisé le premier triple-double de sa carrière, 13 points, 13 rebonds, 10 passes décisives lors de la victoire de Chicago sur Milwaukee, 110 à 91. De leur côté, Chris Paul, avec notamment hauteur de 36 points, et Blake Griffin, 27 points, ont été les artisans de la victoire des Clippers de Los Angeles sur Denver. C'était cette nuit. Les Lakers sont allés gagner de leur côté à Dallas, 91-96, et New York a dominé Atlanta, 99 à 82, avec notamment 17 points et 9 passes pour le français Jérémy Lin ou Jérémy Lin, ça dépend où on se place au niveau de la prononciation, outre ou avant l'Atlantique. Les autres résultats de cette nuit, défaite de Cleveland à domicile sur les Nouvelles-Orléans, défaite de Washington toujours à domicile face à Sacramento, Indiana s'impose sur le terrain des Charlotte, Orlando va gagner à New Jersey, et défaite à domicile des Phoenix au Golden State. Encore quelques résultats, notamment les victoires à domicile de l'Oklahoma City face à Boston, Toronto s'impose 103-93 face au Détroit, le Minnesota qui marque 100 points face à Utah, qui victoire de 2 petits points, c'était très serré entre les deux, 98 points pour Utah, et enfin Houston qui s'impose 93-87 face à Philadelphie. On était relativement complet. Dans quelques minutes, je vous parlerai évidemment de cyclisme, de tennis et de Formule 1, mais avant ça, la petite page football du jour, c'est avec toi Xavier.
Ouais, d'accord. Mais par contre, finirait le Flash par les résultats de Ligue des Champions d'Europa League. C'est en train de se jouer encore là. C'est pas totalement fini, donc je finirai par ça si tu veux en fin de Flash.
Ouais.
Sinon, bah, je vais revenir sur la Ligue des Champions hier, 8e de finale, avec bah, Bâle qui a battu le Bayern Munich. C'est un peu une surprise, 1-0, but de Stöcker, et bah, Marseille qui s'est imposé sur le fil face à l'Inter Milan, 1-0 avec un but d'André Ayew à la 93e, il me semble. Nous, on était pendant l'émission Liberté pour les auditeurs, donc on n'a pas suivi le match. C'était après l'émission, quand on parlait entre nous, on a vu qu'ils avaient marqué sur un corner dans les toutes dernières secondes. C'est un score très favorable, 1-0. Je sais
Non,
pas ce que tu en
mais
penses.
c'est super, hein, on l'avait vu hein, sur corner, effectivement. Bah, ce qu'on peut souligner, c'est que les pourcentages de victoire et de qualification sont à 57% moyenne sur le score de 1-0. Donc c'est un résultat qui est globalement positif. Surtout, il faudra surtout aller marquer un but en déplacement, ce qui sera franchement pas simple à San Siro. Maintenant, bon, c'est un
Sachant
résultat.
qu'ils auront peut-être Loïc Rémy qui sera de retour.
Et oui, tout à fait, bah, qui viendra peut-être de blessure. Et on attend aussi. Bien sûr, la réaction des Italiens, qui ont franchement pas été impressionnants non plus hier, ils ont peut-être joué un peu trop vite le 0-0, ça leur a coûté beaucoup de temps au final.
Et ouais, et c'est comme ça, et puis bon, ça fera un match retour, c'est dans 3 semaines, hein, et ça sera
Ouais, très
très
indécis.
intéressant. Ouais,
Très,
c'est
et,
ça.
très, et on aura deux matchs très indécis, hein, puisque le FC Bâle qui s'est imposé face au Bayern Munich 1-0,
Oui, tout à fait.
c'est également un résultat qui. On s'y attendait un petit peu, hein. Je t'en avais parlé hier. On s'attendait peut-être un peu à ce résultat-là. On s'attendait à ce que Bâle inquiète le Bayern. Ça s'est bien confirmé. Le Bayern qui n'est pas très souverain en Allemagne, en Bundesliga. On voit bien que là-dessus, même s'ils peuvent encore, on l'a déjà dit hier, ils peuvent encore peut-être être champions d'Allemagne. On voit quand même qu'il n'y a pas cette domination-là. On voit qu'en termes de jeu, il n'y a pas la même transition. On voit que les éléments individuels, les Ribéry, les Robben, ils n'ont pas l'impact qu'ils pouvaient avoir avant. Donc franchement, en plus, il y a les blessures des deux joueurs cadres. Donc du côté du Bayern, on sent que du côté du FC Bâle, les Suisses peuvent créer la surprise là-bas. Et Roger Federer, le joueur de tennis, qui a félicité, c'est très rare pour le souligner, qui a félicité les joueurs du FC Bâle sur son compte Twitter. Donc voilà, il s'est pas fait des ennemis en Allemagne, notre ami Roger.
Ben c'est vrai que tu as tout à fait raison, c'est que bah, Ribéry il a eu un face-à-face devant avec le gardien, il me semble qu'il
Ouais,
a perdu.
il a perdu.
Et Bâle, ils ont tiré 2 fois sur les poteaux quand même, hein.
Ouais, tout à fait. Non, non, le résultat aurait pu être beaucoup plus sévère. C'était un match qui a été globalement dominé par les Suisses. Maintenant, voilà, quelque part, ils n'ont pas non plus tenté le diable en fin de match parce que, bon, 1-1, c'est un résultat catastrophique. Donc, on a joué un peu la montre aussi du côté des Suisses. Mais c'est quand même un résultat positif. On verra ça dans quelques semaines. Je crois que c'est déjà la semaine prochaine ou dans 2 semaines, d'ailleurs, les
Bah, à
retours.
mon avis, ça doit être comme Marseille, ça va être dans 3 semaines, hein. Ça doit
Ouais,
être pareil.
exactement, ouais,
Hein.
tout à fait.
Ouais. Bah, sinon, bah, aujourd'hui, il y a Laurent Blanc qui a annoncé la liste des 23 pour le match amical, tu sais, mercredi prochain face à l'Allemagne. Je peux te donner les joueurs si tu veux, mais bon, c'est la liste habituelle avec une nouveauté, c'est Morgan Amalfitano, le Marseillais, qui a été appelé pour la première fois. Et il y a le retour de Louis Saha, qui est un éternel espoir et blessé. Et il est de retour parce que bah il y a les absences de Karim Benzema bien sûr et de Loïc Rémy qui sont forfaits donc ils sont revenus. Sinon c'est le groupe habituel. Et d'ailleurs Laurent Blanc qui a confié que son capitaine serait un de ses hommes, Hugo Lloris, Philippe Mexès ou Eric Abidal. Moi je penche pour Philippe Mexès à mon avis. À noter aussi Philippe Mexès qui fait son retour après avoir été blessé. Il fait son retour et à mon avis s'il retrouve sa place de titulaire, à mon avis ce sera Philippe Mexès, peut-être Abidal.
Mais Lloris ne semble pas avoir la carrière. Lloris, c'est un garçon très intelligent, mais qui ne semble pas être un fédérateur. Or, je crois que Laurent Blanc veut vraiment un fédérateur dans son groupe, ce qui n'est pas le cas avec Hugo Lloris. Abidal, on aurait pu craindre un peu les histoires du passé,
Exactement.
même
C'est
s'il
ce
a
que
été
j'allais
un,
dire.
ouais, même s'il était un peu épargné, puis il y a eu cette maladie qu'il a un peu rendu plus populaire. Il faudra voir aussi, parce que la popularité d'un capitaine, c'est aussi important. C'est qu'un capitaine n'est pas seulement le capitaine d'une équipe, mais il est de son groupe et de son pays, de sa nation. On sait en général que les capitaines impopulaires, on a vu ça en Angleterre ces derniers mois, et qui sont d'excellents capitaines sur le terrain, mais quand ils sont impopulaires, bah, ils passent très vite à la trappe, donc on est très curieux de voir cela.
Bah sinon il y a le choc Lyon-PSG que tu sais
Ah
samedi
oui,
soir.
exact.
Rémi Garde sera privé de Lovren et de Gourcuff, forfait, et de Clément Grenier qui est suspendu pour ce match-là. Donc c'est quand même 3 grosses absences. Enfin surtout Clément Grenier et Lovren, je pense, parce que Lovren derrière il est bon. Et sinon en parlant de choc, il y a un certain Milan AC Juventus en Serie A ce week-end. Et Zlatan Ibrahimovic qui avait pris 3 matchs fermes et avait fait appel pour pouvoir ne pas purger ce troisième match de suspension et participer à ce match-là.
Face à la Juve.
Et ça a été rejeté l'appel, donc il ne participera pas à ce match-là.
Ça risque d'être un match résolu. Alors, franchement, la Juve qui est décevante depuis un petit temps, qui se reconstruit péniblement, lentement, après les soucis qu'ils ont connus, c'est en 2006-2007, je crois, et leurs affaires de tricherie. Donc, on est en train de... En tout cas, c'est un match qui s'annonce très indécis, surtout en l'absence de Zlatan Ibrahimovic.
Et puis quoi, c'est un match capital pour le titre, à mon avis,
Ah
parce
ouais,
que
ça va jouer là-dessus. Ça va pas
ouais.
que jouer là-dessus, mais ça va être, comme tu le dis, un match très
Ça peut être un
important.
tournant.
Exactement, ouais.
Il y a Jean-Michel Aulas aussi qui a déclaré aujourd'hui avoir refusé une offre de 5 millions d'euros du Rubin Kazan pour Kim Källström, comme le mercato, la bosse finit demain soir. Mais
Exact, ouais.
bon, déjà que le groupe est un peu limité des fois, il n'est pas séparé de Kim Källström, on peut le comprendre.
Ouais, et puis c'est de ce problématique, on parle toujours du mercato qui finit le 1er février, disons le 31 janvier à 23h59, et le championnat russe qui, en plus, on voit les pétrodollars avec des clubs hyper chers, et on voit que le championnat russe, ça c'est, petite parenthèse, c'est le championnat où il y a le plus de tricherie et de corruption. Sachez qu'en Russie, 56% des joueurs, dans une enquête, privée, 56% des joueurs évoluant en championnat russe, ont été approchés pour trafiquer un match, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, ça, c'est des chiffres évidemment qu'on vous tait, qu'on ne vous dit pas. Donc,
C'est grave.
ça pose un vrai problème quand on sait effectivement que le mercato est censé s'arrêter le 1er janvier à 23h59. On va clôturer donc la page football parce qu'il ne reste pas beaucoup de
Ouais.
temps.
Sinon, il y a Johan Jouffre qui s'est déchiré les adducteurs. Il sera absent à moi, le joueur lorientais. Si tu veux, je peux donner vite fait les résultats
Ouais,
définitifs d'Europa
exactement.
League.
Sachant qu'il reste, y a une vague de matchs qui ont commencé à
Ouais,
dix-neuf heures et une
fameux
autre vague de matchs qui vont
21h05.
commencer dans quelques secondes, effectivement. Les matchs
Donc,
de 19h donc.
l'Athletic Bilbao s'est qualifié en battant le Locomotive Moscou 1-0. Ils avaient gagné 2-1 à l'aller. Valence qui a gagné comme à l'aller face à Stoke City 1-0 qualifié. Twente sur le Steaua Bucarest 1-0 comme à l'aller. L'Udinese qui avait été accroché à l'aller a été s'imposé au PAOK Salonique 3-0, donc il se qualifie. Le PSV Eindhoven qui s'est imposé 2-1 à l'aller a battu Trabzonspor 4-1. Ça a intéressé le Club Bruges contre Hanovre 96. Bah, ils ont été battus chez eux, les Belges 1-0. Ils avaient perdu 2-1 à l'aller. Le Standard a fait 0-0 face au Wisla Cracovie, un partout à l'aller, donc ils sont
Ils sont
qualifiés.
qualifiés,
Et le reste, c'est à 21h05.
ils affronteront Hanovre qui vient d'éliminer le club de Bruges, donc une
Ah,
revanche
d'accord.
peut-être.
Ah, sinon, il y aurait eu un match belgo-belge, on va dire.
Exactement, exactement. Ça aurait été
Ouais.
le cas si le club de Bruges avait battu Hanovre, difficile donc à battre. Donc merci pour tous ces résultats de football. Je vous
De
rappelle que
rien.
dans...
Il y a deux grosses affiches là, qui suivent. Là, il y a Manchester-Ajax, même si Manchester a pris l'avantage. Et il y a un gros Atlético Madrid-Lazio-Rome aussi.
Ouais, et troisième, Anderlecht à AZ Alkmaar aussi.
Oui, pour
Ah
toi.
oui, pour moi. Ouais. Ah mais quand même, AZ Alkmaar, co-leader du championnat irlandais, donc dangereuse équipe.
En
Pour...
direct, tu penses qu'il y a une chance de passer là? Ils ont une belle équipe cette année?
Ils ont une belle équipe, mais ça va être 50-50. 1-0, c'est pas un résultat facile à
Ah,
gérer
on le
pour un
disait, ouais.
match retour, mais moi, je suis plutôt optimiste, mais en même temps, on verra. Mais je suis
Ah,
optimiste, et
bonne
c'est
chance à
là.
vous en tout cas.
Eh oui, tout à fait. Allez, on va enchaîner parce que dans quelques secondes, vous le savez, c'est le Motor Show, l'actualité des sports mécaniques qui vous est présentée tout comme les jeudis soirs par notre ami Mathieu qui sera en compagnie de sa brochette de consultants et bien entendu un invité exceptionnel ce soir. Il s'agit, pour vous faire une confidence, d'Anthony Hubert. On va continuer et clôturer même ce flash sport en vous parlant de cyclisme. C'est l'info du jour, hein. Johan Ofredo de la Française des Jeux, doit-on dire maintenant la FDJ, a été suspendu un an par la commission de discipline de la Fédération Française de Cyclisme, selon le journal Le Quotidien L'Équipe. Le coureur âgé de 25 ans avait enfreint 3 fois en 18 mois les règles de localisation dans le cadre de la lutte anti-dopage, ce qu'on appelle les wearables, et risquait jusqu'à 2 ans de suspension. Ofredo, avait fourni son programme en retard par 2 fois et n'avait pas notifié un changement de sa localisation en juillet dernier. La sanction n'est pas appliquée rétroactivement et il sera donc absent du peloton en 2012 alors qu'il se préparait à disputer les classiques du printemps. La réaction du coureur français Johan Ofredo, je le crie de toutes mes forces, je n'ai jamais triché, je n'ai jamais pratiqué le cyclisme, et j'ai toujours, pardon, pratiqué le cyclisme avec honnêteté, pardon. Il me semble toutefois que dans l'échelle des sanctions infligées au coureur, cette suspension d'un an est disproportionnée, fin de citation, je ne peux que le rejoindre là-dessus. On aura sans doute un débat dans les prochaines semaines sur RTS sur cette problématique de dopage et ce règlement très sévère des wearables, où on sanctionne quelqu'un qui n'a pas rempli un logiciel Internet correctement, à la même degré, à la même échelle qu'un autre qui a été contrôlé positif. Allez comprendre. En tout cas, le coureur qui peut faire appel semblerait se tourner plutôt vers un tribunal étatique, c'est-à-dire, comme vous le savez, les tribunaux civils. Il ajoute, cette sanction cause un dommage à ma carrière et à ma réputation. Elle met en doute l'homme que je suis et je me réserve le droit d'en appeler au jugement d'une cour civile, non pour revenir seulement à la compétition, mais surtout pour faire valoir une sanction juste. Fin de citation définitive.
Même si ça, c'est pas une accusation de dopage, là, c'est juste qu'il il a pas rempli. On doit être remplir. On a le droit à trois fois, c'est ça.
C'est ça. En 18 mois.
Il n'a pas été contrôlé positif non plus, donc ça n'aide pas non plus son image. C'est plus une erreur un peu peut-être de jeunesse ou d'oublier que d'être pris par dopage.
Et officiellement, on appelle ça un défaut de localisation, mais la sanction est tout aussi sévère qu'une sanction pour dopage.
C'est vraiment.
C'est vrai. Oui, c'est exactement ça, Gianni Longo. Mais on peut vraiment. Il y a un débat qui est né de ça d'ailleurs. C'est vraiment. On en parlera une prochaine fois, bien évidemment, dans des prochaines émissions sur cette problématique-là. On va parler de quelques infos Formule 1. À mon avis, je vais les laisser à Mathieu parce qu'on est privé de temps. Donc, je vais clôturer, parce que de toute façon, on va parler de Formule 1 dans quelques secondes, à l'occasion du Motor Show. Donc,
ça commence bientôt, d'ailleurs.
Ça va commencer juste après le Flashport.
Non, je parle de la Formule 1.
Ah, la Formule 1, oui. Pour le moment, on est dans des essais privés. Alors, je peux te donner l'info. Pastor Maldonado. Le Vénézuélien sur Williams a conclu en tête la troisième journée de test à Montmeló, c'est en Espagne, avec un chrono de 1 minute 22 secondes et 391 centièmes en pneu. Il était en pneu très tendre. Il s'agit ni plus ni moins du meilleur chrono de cette série de tests de pré-saison 2012, qui en comptera encore une autre. Ce sera en Catalogne du 1er au 4 mars. Pour être précis, je vous précise également que le deuxième tour a été signé par Michael Schumacher. Tiens, un certain Allemand, un jeune prometteur sur Mercedes, il est à près d'une seconde. Et Kamui Kobayashi de sur Sauber, vous savez que c'est le pilote japonais, il est à une seconde et 191 centièmes. Par ailleurs, Lotus a obtenu l'accord de toutes les équipes pour une journée de test exceptionnelle. Ce sera lundi à Silverstone, vous savez, le circuit de Grande-Bretagne. L'équipe a remballé son matériel après 7 jours couverts, c'était mardi matin, à Montmeló, suite à un problème de design. Sur la monoplace, elle a ainsi perdu 4 jours d'essai. Toutes les autres écuries qui ont été solidaires, c'est important de le souligner, a autorisé Lotus à concourir exceptionnellement lundi à Silverstone pour rattraper un petit peu de ce retard. Bravo à elle. Quelques résultats en tennis et on se quittera définitivement pour se rejoindre avec plaisir juste après, bien évidemment. À Buenos Aires, deuxième tour, défaite de Gilles Simon sur terre battue. Ça, c'est une grosse déception, par Berlo qui n'est pas un manchot sur terre battue, certes. Victoire du Brésilien 6-2, 6-1 à Memphis sur dur. C'est le premier tour, c'est toujours chez les messieurs. Milos Raonic, le prometteur joueur, a battu Ernest Gulbis, l'Estonien, 6-2, 7-6. C'était un match de gros cogneur, je peux vous l'assurer. L'énorme surprise du jour vient d'Andy Roddick, qui a gagné plusieurs fois le tournoi de Memphis. Il était battu en 2-7 par Xavier Malis, le tennisman belge. C'est la première fois que Malis le bat, d'ailleurs. Des deux résultats, l'Open 13, c'est à Marseille, vous le savez, deuxième tour, victoire de Mikhail Yodra, ça c'est une très belle victoire face à Dolgopolov, franchement très belle victoire, 6-4, 5-7, 7-6, c'est pas évident, parce que Dolgopolov, je suis sûr qu'il a la pépite dans la raquette, ça passe très facilement pour Richard Gasquet aussi, face à Kunitsin, 6-3, 6-2, des résultats WTA Dubaï, victoire de Gulia Gorgas face à Daniela Antuchova. La jolie Slovaque en 3-7 pour l'Allemande, victoire de Wozniacki, l'ancienne numéro 1 mondiale, qui est désormais quatrième. Elle a battu l'ancienne numéro 1 mondiale aussi, qui est désormais qui est dans le top 15. Anna Ivanovic, 6-3, 7-5. L'ancienne numéro 1 mondiale toujours, Yelena Jankovic, a battu Sam Stosur, 6-4, 6-2. Stosur qui a du mal de revenir après son titre à l'US Open l'année passée, c'est vraiment difficile pour l'Australienne. Radvanska, toujours son mental, un point faible. Radvanska, de son côté, a battu Sabine Lisicki, qui je crois avoir été relativement complet. Je vous retrouve dans quelques secondes. Je vous retrouve en parcimonie, puisque vous retrouvez évidemment votre vedette préférée. Et puisqu'il s'agit de Mathieu, ce sera l'occasion du Motor Show. Et je te remercie, Xavier, de ta participation. Et je te salue. Et je ne sais pas si tu es là demain pour le prochain Flashport ou si ce sera plutôt la semaine prochaine, toi.
Ce week-end, je suis là. Normalement, avec l'USA, on le fait le week-end. Des fois, il y a Stan. Donc, je dis à demain à tout le monde. Puis, surtout, une bonne émission à toute l'équipe. Et puis, passez une bonne soirée.
Je vais me faire taper sur les doigts. Il est 21h05. On a 5 minutes de retard. Merci, Xavier. À demain.
Au revoir. Salut, à demain.
Le Motor Show, l'actu des sports mécaniques, tous les jeudis à 21h sur RTS avec Mathieu et son équipe.
On est dans la cinquantaine des émissions, on est le 23 février 2012, on va demander, sans doute avec Xavier, on va avoir une réunion en interne pour augmenter l'horaire et pour augmenter le plage horaire plutôt du Flashport, parce qu'on est en retard, je vais me faire taper sur les doigts, j'en ai peur d'avance. Vous retrouvez l'ogre Mathieu, qui a tellement d'autres qualités à part me taper sur les doigts dans quelques secondes, ce qu'il va faire avec un grand plaisir. Il vous anime pour, je vous dis, on est à la cinquantaine du Motor Show, l'actualité des sports mécaniques, c'est maintenant, c'est durant près de 2 heures, avec Mathieu, ses consultants, ses invités. Bonsoir Mathieu, comment vas-tu?
55e émission ce soir.
J'étais dans le bon.
Nous sommes là, fidèle au poste, tu n'étais pas loin, bien sûr. Je suis un peu plus précis que toi, c'est logique. Je te salue, mon cher Chris, et je salue nos amis auditeurs qui sont là ce soir. Un bon programme à suivre dans quelques instants. Chris, je te salue. Comment ça va du côté de la Belgique Mons?
La Belgique va bien, Mons va encore mieux, mais je suis très très, j'ai hâte, je me tâte, véritablement, je ne sais pas de quel sujet allons-nous parler ce soir, et donc je suis tout à fait curieux et dans l'expectative, comme tous nos amis auditeurs, qui peuvent également participer à cette émission sur le chat ou sur la page Facebook de l'émission. Vous le savez, on aura aussi un sondage à remplir pour avoir vos avis et votre tendance.
Je te laisse gérer tout ça, car notre ami Jérôme n'est pas là ce soir, c'était prévu. Olivier, je pense qu'il va arriver dans quelques instants, je l'espère pour lui. Mais en tout cas, ceux qui sont bien à mes côtés, c'est devenu une habitude depuis plusieurs semaines. Je salue mon ami Michel qui est revenu du stade Vélodrome ce matin. Ça va être compliqué hein, ce soir.
Ah ouais, physiquement, c'est très très éprouvant. Hein. Faire 8h ou même 9h de trajet comme ça, c'est très fatigant. Rien que le bonhomme à ma voix, on entend sans doute.
Ah oui. Mais
ça va très bien.
C'est pas grave, on va faire comme si tout allait bien. De toute façon, le programme de ce soir s'annonce si exceptionnel que on va outrepasser la fatigue ambiante pour nous faire une émission de toute beauté. Et je salue maintenant, ça fait très longtemps qu'il n'était pas revenu nous voir, notre ami, la F1 en continu sur Facebook, la grande page de la Formule 1 hein, qui mène et de loin ce combat qu'il mène avec brio face à la concurrence. Je salue Alex, salut à toi.
Eh bien, bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde, ça fait un plaisir de revenir dans le Motors Show. Et puis, la F1 est revenue et pour de bon, que demande le peuple, hein, et j'ai hâte de passer une bonne soirée en votre compagnie.
Et alors ce soir, c'est assez exceptionnel également. Alors, on a reçu Yvan Muller il y a 3 semaines, ou 4, non plutôt 3 semaines. Et ce soir, je rappelle Yvan Muller un peu, est le sort de surveillant général de cette équipe de France de la FFSA, que ce soit les pilotes confirmés en monoplace ou en karting, et bien ce soir, nous avons la chance et l'honneur de recevoir pour la deuxième fois de notre histoire un autre ami maintenant. Il fait partie de la grande famille du Motor Show. C'est un pilote de karting qui était ce week-end à la Winter Cup de Locarno en Italie. C'est une compétition assez importante pour le karting international. Je salue notre ami Antoine Hubert. Comment ça va, Antoine?
Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Moi, ça va très bien. J'ai enfin pu reprendre le kart et la première compétition le week-end dernier qui s'est plutôt bien déroulée, donc tout va bien.
On va y revenir dans quelques instants. Effectivement, on est très heureux de te retrouver. Et je pense que ça, c'est vrai que le karting a dû te manquer cet hiver, hein, l'entraînement physique. Hein, ça devait être éprouvant. Tu nous raconteras tout ça. Car forcément, on ne peut pas tout savoir, donc on en parlera tout à l'heure. Donc c'est le début, la première partie de l'émission, un petit point karting, ça fait toujours plaisir, hein, faut en parler. Il ne faut pas l'oublier, la Winter Cup de Locarno en Italie, avec notre invité Antoine Hubert, et quelques infos aussi sur le karting. Après, bien sûr, le deuxième morceau de la partie de la soirée, c'est la Formule 1, les essais à Barcelone, les 3 premiers jours, qui ont eu lieu à partir de mardi dernier. Quelques informations en retirer. Bien sûr, il faut encore attendre la semaine prochaine hein, pour définitivement trouver quelques conclusions à ces essais. Mais on a des premières impressions qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Hein. De toute façon, on peut se tromper ce soir, c'est normal. On n'a encore qu'en test. hivernaux. Et ensuite, quelques infos pour terminer l'émission, des infos notamment concentrées sur la monoplace, le GP3, le GP2, car ça va bouger dans les prochaines semaines. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour effectuer une émission de grande envergure? Chris, je sens que Chris, tu es chaud ce soir après un flash sport qui a été mené de main de maître. Chris, ce soir, un programme alléchant.
Tout à fait, mais je remercie cette douce ironie qui te caractérise si bien, qui sied si bien à ta personnalité, Mathieu. Non, je suis en effet très chaud. C'est curieux quand même, hein. On est à la fin du mois de février, il y a comme un goût de rentrée scolaire, je trouve. C'est très amusant, moi ça m'excite beaucoup. Je suis excité ce soir.
Bah, comme toi un peu, hein.
Ah oui, on l'est tous de toute façon. Alors, comme le programme le veut, on va pas parler de ça tout de suite, hein. On va parler un peu de karting, c'est du 4 roues, ça a un moteur. C'est quand même de la monoplace, du sport mécanique, et donc il faut en parler. Donc, chers amis auditeurs, préparez les questions si vous voulez tout savoir et tout demander à notre invité. Première question, Antoine, comment s'est passé dans l'aspect général, hein, cette rentrée, on va dire rentrée mondiale, rentrée scolaire du karting à Locarno ce week-end?
Dans l'ensemble, plutôt bien. C'était ma première course avec ma nouvelle équipe Formula K, une équipe italienne. J'ai eu la performance tout le week-end. J'étais tout le temps rapide. En pré-finale, je me suis classé quatrième. Et en finale, malheureusement, je me suis fait pousser au premier tour. Je me suis retrouvé quinzième. Et puis après, les écarts étaient tellement serrés que j'ai pas pu remonter tellement et que je suis remonté dixième. Donc, je suis un peu déçu pour la finale, mais c'est pas un championnat très important, même si c'est la première course. Donc je suis quand même content du fait qu'on soit performant, et pour cette année, je vise des grandes choses.
Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Je voulais savoir, dans une course comme ça, dans une première course comme ça, avec forcément cette nouvelle écurie pour toi, quel est le sentiment global? Est-ce que tu penses plus au résultat, à la performance, ou est-ce que tu es quand même satisfait des bonnes impressions laissées? Je suppose que c'est quand même mitigé malgré tout, non? On a un petit doute, même si la course n'est pas la plus importante de la saison, loin de là.
Bah, de toute façon, quelle que soit la course, on y va toujours pour gagner, et quand on ne gagne pas, on a toujours un peu de déception. Après, quand on ne gagne pas et qu'on n'a pas été du tout performant, c'est sûr qu'on n'est pas content, mais là, c'est pas mon cas. J'ai été performant tout le week-end. Et malheureusement, le résultat est pas là, mais je pense que cette année, ça va marcher. Donc, je suis quand même assez content d'avoir pu voir ça ce week-end.
Espérons que ça marche, bien sûr. Hein. La saison est longue, et te voir briller, ce serait vraiment une chance pour nous et pour toi, bien sûr, hein, pour te faire pouvoir parler de toi. Après, pourquoi pas, la monoplace pourrait frapper à ta porte, mais on en est qu'au début. Hein. La Winter Cup, donc, alors, tu dis que c'est pas très important. Est-ce qu'on a quand même vu sur le plateau les plus grands, presque tous les... Sur le plateau, quel niveau avait le plateau ce week-end? Est-ce qu'il était très relevé, ou il y a encore des pilotes qui ont préféré faire l'impasse?
Il y avait quasiment tous les meilleurs pilotes qui sont présents lors des championnats du monde, etc. Parce que même si c'est pas une... en fait, c'est une course amicale, entre guillemets, mais toutes les usines, tous les pilotes viennent pour voir où ils en sont après l'hiver, ce que ça a donné leur test, et voir s'ils sont au point ou s'ils doivent encore travailler pour combler le retard.
Oui, il y a une petite écho, non, c'est bon. Alors, pour le classement général de cette course KF2, hein, ta catégorie, la victoire de l'ami néerlandais Max Verstappen, ce nom est forcément très connu, hein, c'est le fils de Jos Verstappen, il devance l'Italien Antonio Fuoco et le Norvégien Dennis Olsen. Alors, je me rappelle, Olsen était présent au Masters Kart de Bercy. Je continue. Tom Joyner, tu pourras un peu nous parler un peu de ces pilotes-là, s'il faut les tenir à l'œil cette saison. Commençons par le trio de tête. Tout d'abord, donc, Max Verstappen, a priori, bon, il a gagné. Et ça doit être un grand espoir de la discipline.
Verstappen, oui, bah c'est sa première année dans cette catégorie-là. Mais bon, j'ai déjà roulé avec lui en 2010 dans la catégorie inférieure KF3, et donc je le connais. C'est une valeur sûre. À chaque course, il se bat pour le podium, si c'est pas pour la victoire. Donc c'est sûr qu'il sera au rendez-vous cette année, à chaque course, pour se battre pour la victoire.
Ensuite, donc, Antonio Fuoco et Dennis Olsen.
Antonio Fuoco, donc c'est un Italien. Il est Il n'a pas toujours été très rapide, mais là, il est dans une très bonne équipe. C'est l'équipe qui avait gagné la Coupe du Monde l'an dernier dans cette catégorie. Donc forcément, ça marche. Et puis, c'est un bon pilote, c'est un guerrier. Donc, je pense qu'il sera, il sera aussi au rendez-vous pour se battre pour la victoire. Ensuite, Denis Olsen, c'est aussi un bon pilote. C'est vrai qu'il était l'an dernier à Bercy. Il a eu un peu de mal là-bas, mais c'est aussi un bon pilote qui est dans une bonne équipe. Après, bon, les écarts sont tellement serrés que les pilotes, il n'y a pas de grosse différence. C'est souvent plus les réglages, les petits réglages, le châssis, le moteur, la préparation du moteur qui font des différences. Entre les pilotes, dans les 20 premiers, c'est quand même très, très serré. Ça joue vraiment à coup de millième, à coup de centième. Donc voilà, c'est très serré.
Et à noter aussi notamment un Britannique assez prometteur. On en a parlé, enfin, les médias un peu en ont parlé, notamment le magazine F1 Racing, je me rappelle, Callan Okwefe. Un Britannique, notre ami français aussi, enfin monégasque, Charles Leclerc, grand vainqueur des Masters Start de Bercy en décembre dernier. Donc ça fait plutôt un plateau assez relevé, assez sympathique, je pense, à suivre. Donc tu l'as dit, les écarts sont assez serrés. Justement, un petit mot aussi sur l'esprit bagarreur qu'on a pu avoir ce week-end. J'ai lu quelque part que les Britanniques sont assez virils en karting. Est-ce que tu l'as senti aussi?
Les Britanniques, ils sont à cette course-là, c'était pas spécialement les Britanniques, c'est un peu tout le monde. Tout le monde est un peu foufou après l'hiver, tout le monde veut revenir et faire un peu n'importe quoi. Donc dans les premiers tours, ça chauffe un peu. C'est pas que les Britanniques.
Et justement, on va revenir un peu en détail sur ta course, tes courses. Effectivement, tu l'as dit, tu étais assez malmené. Lors de la finale, pourtant, oui, tu as dit en pré-finale, tu étais quatrième. Est-ce que tu as la certitude de moins viser le podium ou la victoire?
En fait, en pré-finale, c'est pareil. Au départ, il y a quelqu'un qui était derrière moi qui m'a poussé, donc je me suis retrouvé loin. Je suis ensuite remonté quatrième en faisant les mêmes temps que le deuxième et le troisième, sachant que Verstappen était un peu plus rapide quand même. Donc en finale, j'avais pris un assez bon départ et puis... il n'y avait pas de raison pour moi, j'allais mal pour le podium. Donc, ouais, pour moi, ça faisait. Je pouvais faire le podium si j'avais pas eu cet incident.
Et surtout qu'on voit que tes coéquipiers qui sont devant 5 et 6 aussi, donc c'est pas si mal que ça. Juste une précision par rapport au nombre de Britanniques, ils étaient dans cette course tout aussi nombreux que les Italiens. Ils étaient 8, donc c'est quand même pas mal. 8, si tu veux, Mathieu, petite dédicace. Donc oui, donc aussi il y a une surreprésentation. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait deux autres pilotes français parmi les 34, je crois, vous étiez 34, me semble-t-il, ou 35.
En finale.
Ouais, en finale. Quel rapport as-tu avec les autres Français justement de cette discipline?
J'en connais plusieurs. Enfin, je les connais. La plupart, je les connais. Certains, je suis en équipe de France avec eux. Ces deux-là, il y en a un qui est en équipe de France, l'autre non. Et je roule avec eux depuis 2005 et 2006, donc on se connaît plutôt bien.
Alors, Mathieu, pour cette... Oui, Chris.
Non, mais je t'en prie, je te recédais le témoin, tout simplement.
Oui, et j'ai remarqué qu'il n'y avait que des Européens, pratiquement, il me semble.
J'ai vu un Brésilien, non?
Il y a un Brésilien, c'est essentiellement Européen, en tout cas.
Il y a un non-Européen en finale.
Oui, c'est ça, un Brésilien, Thiago. Vive à quoi?
C'est ça.
Il
a fini 26e.
Est-ce que tu sais, Antoine, si donc il y aurait, tu connais des non-européens ou c'est essentiellement européen? Enfin, il faut savoir, je crois que les équipes sont essentiellement basées en Italie aussi.
Le kart, la base du kart, c'est en Italie. Il y a 80-90% des écuries qui sont italiennes, donc c'est sûr que le kart, c'est quand même plus européen. Mais bon, là, il y a une nouvelle Yart Grand Prix qui sont lancés en kart. Et ils ont eu pas mal de Japonais. Et les Japonais qui arrivent pas mal en kart. Et c'est vrai qu'en KF2, en finale, il y avait un Brésilien ensuite.
Et en karting, c'est les deux nationalités les plus représentées. En premier, petite question, Antoine, à ton avis. Petit quiz, Antoine. En premier, évidemment, tu vas me répondre.
Italie ou Angleterre?
Italie, exactement. Et en deux?
Angleterre.
Ouais, exactement. Et troisième?
La France.
Oh, bravo. Eh bien, je crois que le quiz de fin d'émission, tu peux le jeter à la poubelle, Mathieu. Il a déjà réussi, Antoine.
Non, mais oui, il faut savoir, il me semble quand même que la meilleure, en gros, la meilleure équipe de karting, c'est resté Tony Kart. C'est français. Enfin, il me semble quand même, hein, c'est Tony Kart, presque.
Non, la seule usine française, c'est Sodica. Sodica, c'est italien.
Ah, pardon, oui, voilà, Sodica. Qui était donc fournisseur à Bercy. Mmh. Ouais, donc Sodica, ça reste quand même le constructeur de karting numéro 1 dans le monde, hein, pratiquement quand même.
Bah oui, numéro 1 dans le monde. Mais en fait, ils font cette différence parce que ils ont le marché quasi total des cartes de location. Donc c'est pour ça qu'ils sont constructeurs numéro 1.
D'accord. Mmh. Alors maintenant, parle-nous justement de cette nouvelle équipe, Formula K. Parle-nous, est-ce que tu connais un peu son influence et surtout justement, elle possède les ressources nécessaires pour aller loin dans cette saison de karting. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Oui, pas de problème. Donc, c'est une écurie qui a été créée en 2010. Dans les créateurs, il y a Andrea Bertolini, donc qui est un pilote de GT qui a été 3 fois champion du monde et qui est aussi pilote Ferrari. Et donc l'an dernier, en 2010, ils n'ont pas eu de résultats majeurs. L'an dernier, ils ont été vice-champions du monde, vice-champions d'Europe et 4e au championnat du monde, à un autre championnat du monde. Donc c'est pour une deuxième année, c'était quand même assez prometteur. Et j'ai fait des tests. Bah, le lendemain d'être venu dans votre émission, je suis allé faire mes premiers tests avec eux. À ce moment-là, je savais pas encore que j'allais rouler avec. Et ils ont vraiment fait des efforts pour pouvoir me récupérer parce que financièrement, c'était pas facile. Et puis ils avaient l'air vraiment très motivés, donc pour moi ça a été un, je pense, un bon choix. Et puis après cette première course, je pense avoir fait le bon choix et ils ont l'air vraiment motivés. Pour l'instant, ils sont contents de moi.
Ouais, en France, c'est des belles couleurs bleu vert et blanc, si c'est assez sympa, ça tranche un peu en tout cas. Sinon, justement, est-ce que tu pourrais nous dire comment ça se passe, sans rentrer dans les détails, maintenant en coulisses, les négociations, comment ça se passe comparé forcément aux autres, aux monoplaces un peu plus connues. Est-ce que le karting, ça s'en rapproche ou c'est radicalement différent, c'est plus amateur en gros, comme ça?
Ah, les chiffres sont quand même assez importants, donc faut pas que ça reste trop amateur. Là par exemple, en fait, Sony Kart m'a annoncé en début décembre, donc assez tard, qu'ils arrêtaient les catégories KF. Donc j'ai cherché une équipe. La FFSA m'a mis un peu en contact avec cette écurie. Et ensuite, j'ai fait ces tests. On a discuté des prix, etc. Et j'ai fait des efforts de mon côté pour trouver le maximum de sponsors parce que c'est vraiment très très cher. Et sans sponsor, je peux pas m'en sortir. Ils ont fait des efforts aussi, et voilà. Après, les pilotes qui arrivent avec full budget, ils vont voir la meilleure équipe, ils leur disent c'est combien, voilà, ils signent le chèque, et puis c'est bon. Mais moi, c'est pas mon cas.
Hey, c'est sûr que ce souci financier, ça reste quand même assez prépondérant dans les sports mécaniques. Ça ne changera pas du tout en karting. Ça, c'est sûr. Alors, pour revenir sur cette compétition, est-ce que tu as relevé, tu as noté des gens qui sont venus là pour un peu prendre en compte les résultats des pilotes, des recruteurs de plus grandes équipes? Est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que ça commence même dès le début de la saison avec des compétitions amicales aussi, quoi?
Il y avait Nicolas Tal, vu qu'ils ont créé l'équipe Arc Grand Prix, il était là pour représenter. J'ai pas vu spécialement de recruteurs, etc. Mais bon, il y avait énormément de monde, de spectateurs, etc. Donc il y avait forcément des gens importants.
En tout cas, bon, alors j'ai lu qu'il y avait peut-être Michael Schumacher qui m'a dit en off qu'il n'y était pas. Tu l'as pas vu en tout cas?
Non, je pense pas son fils roulait, mais lui, il me semble qu'il n'était pas là.
Oui, absolument, son fils Mike, ou Nick, son prénom.
Ah ouais, Schumacher et Verstappen réunis, oula.
ça n'a pas bien. Fait. Mais je pense pas qu'ils étaient très proches l'un de l'autre dans la course, donc ça va.
Les pères, non, mais les fils, je sais pas.
Ouais, je parlais des fils, là.
Oui, des fils. Ouais. Alors par contre, à noter, on a eu la présence d'Ivan Müller. On l'a invité le 2 février dernier dans l'émission, un grand moment avec Yvan Miller, qui était présent pour représenter la FFSA. Hein, qu'est-ce qu'il t'a apporté pendant ce week-end?
Ah, c'était la première fois depuis que je suis en équipe de France qu'il venait sur une courbe, où c'était vraiment sympa de le voir sur une piste de kart. Après, on n'a pas eu le temps de beaucoup parler, mais quelques petits conseils. Vraiment, c'est sympa de sa part d'être venu nous voir.
Non, c'est clair que bon, ça a dû être assez sympa, c'est sûr. Ouais, il doit être vraiment très très calme, hein, très cool. Franchement, c'est un plus.
Il est vraiment très très posé et puis il est vraiment simple, il se prend pas la tête, tout ça. Enfin, c'est vraiment un bon capitaine.
Alors messieurs, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce week-end à Locarno, niveau sportif?
Bah, au niveau sportif, on peut te demander quelle sera l'équipe la plus concurrente, parce que je vois quand même qu'il y a des équipes qui sont très bien représentées. Bon, FA Kart notamment, je vois Tony Kart, etc. Quelle est l'équipe que tu peux le plus craindre, ou est-ce que tu regardes plutôt voilà ce que toi tu dois améliorer, ce que ton équipe doit améliorer?
Je me concentre premièrement d'abord sur ce qu'on doit améliorer pour aller chercher la meilleure place. Après, pour moi, le pilote qui... J'ai peur de personne, mais pour moi, le pilote qui sera le plus rapide cette année, ce sera Max Verstappen. Parce que là, il a vraiment prouvé qu'il était, même si c'était très serré, lui, il était quand même un petit peu au-dessus. Donc, je pense qu'il sera très vite cette année.
Oui. Donc, le prochain rendez-vous, ce sera, je pense, dans 10 jours. Ce sera le 4 mars à La Conca en Italie.
Non, je fais pas le championnat, en fait.
Ah, d'accord.
Prochaine course, moi, c'est en avril, c'est du côté de Naples.
Ah, toujours en Italie, donc voilà. Et l'objectif ici sera de non seulement de se maintenir en finale dans le top 10, mais pourquoi pas aller chipoter le top 5 et se rapprocher du podium, j'imagine.
Ouais, mon objectif, ça sera le podium. Et puis après, si je vois que j'ai l'opportunité d'aller chercher mieux, bah forcément, je la saisirai.
C'est tout le mal qu'on te souhaite, Mathieu.
Oui, et alors justement, quel est le programme avant le mois d'avril de préparation? Il y a des tests de prévu?
Pour l'instant, non. Mon équipe Formula K m'envoie un châssis cette semaine pour que je puisse m'entraîner de mon côté, parce que si je roule pas d'ici avril, je vais être un peu perdu quand je vais dans le car. Mais pour l'instant, je suis pas censé rouler avec l'équipe.
Et alors oui, justement, sur ce châssis-là, est-ce que tu sais, tu as des contraintes spécifiques au niveau de pneus, de carburant, de durée, non?
Non, pas spécialement. Il n'y a pas vraiment de différence entre les châssis au niveau de ça. C'est plus leur rapidité. Après, sur l'usure des pneus et tout, il n'y a pas de différence notable.
Ouais. Mathieu, chers amis auditeurs, on peut faire une petite annonce à nos amis auditeurs. Ils peuvent évidemment réagir et poser toutes leurs questions à l'invité, à notre invité du soir, ou pourquoi pas à la discipline de notre invité, le karting, de son avenir, lui parler de ses petits plaisirs hors sport automobile, ou même de ses autres passions dans les autres disciplines. Donc n'hésitez pas, la page Facebook de l'émission sur le Motor Show, tout simplement sur le plus grand réseau social que vous connaissez bien, j'imagine, et bien évidemment sur le chat d'RTS, sur le site de notre page d'accueil, rtsradio.fr. Je dis ça parce que je sais qu'il y a quelques auditeurs qui nous écoutent sur des sources différentes que rtsradio.fr. Nous avons un chat sur notre site d'accueil, donc n'hésitez pas à y venir et à poser vos questions. Nous en publierons les principales, et pourquoi pas, même si on peut toutes les publier, nous le ferons avec plaisir.
Merci Denis Fabre, la speakerine du Motor Show.
J'espère que c'est plus Fabre que Denis, d'ailleurs.
T'inquiète pas. Oui, alors... Et ensuite, maintenant, je vais revenir un peu avec Antoine sur cet hiver. Depuis que tu nous as quittés, alors, en fin décembre, on a eu 2 mois. Alors, tu l'as dit, tu as fait donc les tests avec Formula K et la négociation a eu lieu. Donc, cet hiver aussi, entraînement avec la FFSA.
Le lendemain d'être passé dans votre émission, je suis allé faire mes premiers tests avec Formula K, donc ça c'était fin décembre. Après la période de Noël, tout ça, j'ai pas eu d'entraînement en karting. Du 7 au 15 janvier, j'ai eu le stage de préparation physique à Chamonix avec l'équipe de France. Donc c'était super sympa, il y a toujours une bonne ambiance, et puis ça permet de se remettre bien physiquement pour la saison. Et ensuite, j'ai la semaine d'après, les deux semaines suivantes, j'ai roulé 4 jours sur la piste de la course. Et depuis plus rien, parce que je devais refaire des essais, mais avec la neige, ça a finalement été annulé.
Ah oui. C'est vrai que la neige fut présente cet hiver. Et alors donc tu continues les cours en parallèle. Alors c'est pas trop compliqué. Est-ce que une nouvelle équipe t'a imposé des contraintes là-dessus?
Non, la nouvelle équipe, ils savent que je suis au pôle espoir de la FFSA, donc ils savent que pour moi l'école c'est important et forcément je fais le maximum pour être aussi au top à l'école, parce que le kart c'est bien beau, mais c'est pas sûr que j'arrive à en faire mon métier.
Alors une question sur le chat, notre ami Simon, notre fidèle auditeur qui attend avec impatience, je pense, la dernière partie de l'émission. Une petite question, alors je pense que tu nous l'avais dit, me semble, en décembre dernier. Alors bon, la repose, hein, est-ce que tu as un projet pour monter en monoplace dans les prochaines années, ou alors quel est ton projet aussi à moyen terme déjà?
Pour l'instant, c'est toujours du kart. Après, sûrement, pour 2013, il va falloir y penser. De toute façon, ce sera sûrement, je vais sûrement faire la championnat de France F4, donc le championnat de France, anciennement la filière, mais c'est le championnat de la FFSA, c'est des formules Renault en Lexus.
Ouais. Donc c'est généralement par là où tous les anciens pilotes de karting commencent, enfin, français, commencent leur aventure en monoplace, comme notamment on a eu Mathieu Vaxivière qui a été champion l'an dernier, qui va passer en 2.0. Après, ça fera le cheminement, hein. Mais bon, pour toi, Antoine, tu as encore un peu le temps de voir. Mais c'est clair que pour l'instant, la filière classique semble pour toi être la meilleure.
Oui. Ça, c'est aussi une question de budget. Parce que c'est vrai que le coût de la saison de F4 n'est pas excessif. Alors que faire le pas tout de suite à la Formule Renault, c'est tout de suite des budgets énormes. Alors qu'en commençant par la F4, on peut se faire repérer, et puis après ça peut aider à créer des liens et puis des contacts pour passer en Formule Renault.
Ouais. Juste comme tu fais partie de la filière FFSA, c'est sûr, ce sera un coup de pouce indéniable de la part de la fédération qui te soutient et soutient tous les membres du groupe. Alors Chris.
Oui, non, juste pour signaler à quelques amis et à quelques auditeurs, bien évidemment, qui sont fans de karting, qu'il y a quelques liens utiles pour pouvoir suivre les plusieurs disciplines et plusieurs compétitions, notamment le site très, parce que moi je me suis en fait documenté sur deux sites référencés très connus, kartmag.fr qui est très bien. Alors pour moi c'est le meilleur, pardon pour nos amis de kartmag.fr, mais je trouve que celui de kartcom.com /fr est vraiment le meilleur. Donc kartcom, vous tapez ça sur un moteur de recherche et vous allez voir, vous allez tout de suite trouver votre bonheur. J'ai un peu ramé là-dessus. Ça peut arriver.
Et là, mais oui, c'est vrai que d'un côté, on parle souvent de la F1, GP2, alors que le karting, on a les jeunes talents de demain, d'après-demain, qui sont là, qui se battent roue contre roue, tout le monde est passé par là, et bon, ça fait du bien d'en parler ce soir, comme on pourra en reparler les prochaines fois avec notre invité. Puis après, si tu veux, Antoine, tu pourras inviter d'autres pilotes, hein, que tu connais bien, notamment Charles Leclerc, hein, qui est certainement assez disponible.
Oui.
Donc après c'est libre, tu es libre de d'inviter qui tu veux de la filière kart pour en parler un peu plus en profondeur, puisque je pense que certains médias, hein, et c'est, ne sont pas non plus hyper intéressés, grands médias sont pas non plus hyper intéressés par cette discipline là, même si quand même, hein, c'est la base de tous les champions.
Pas de problème, je connais quelqu'un qui sera intéressé, je pense, pour venir dans l'émission.
Il n'y a pas de souci, hein. Tu seras notre consultant karting et de toute façon tu reviendras l'année prochaine pour nous revenir sur tes courses et compétitions.
Et j'ajoute aussi que si vous voulez suivre Antoine Hubert sur ses actualités, il a un site internet. Attention, je l'ai déjà dit la dernière fois, attention, Antoine, s'il y a une petite particularité, contrairement à la majorité des garçons qui se prénomment Antoine. Antoine comporte un H, donc c'est-à-dire A-N-T-H-O-I-N-E, donc tout simplement antoinehubert.com. Très simple à retenir quand on a compris cette petite précaution-là, et donc c'est assez complet, le site internet de notre invité exceptionnel du soir.
Voilà, alors qu'est-ce que j'avais noté comme petite... Ah oui, c'est vrai, bon, on n'en a pas parlé, mais sur cette course de Winter Cup à Locarno, j'avais pu lire que l'an dernier, en 2011, tu t'es gravement blessé lors de la finale. Justement, si tu veux, tu peux nous faire un petit point sur ton historique dans cette compétition-là, Winter Cup, si je t'en rappelle.
L'an dernier, en fait, j'avais juste fait une journée et demie de test, je crois, parce que après j'avais eu un problème de côte, donc j'avais pas pu rouler, puis j'avais pas voulu prendre trop de risques pour pas me blesser plus et puis pas m'empêcher de faire des courses plus importantes. Et puis il y a 2 ans, j'avais terminé 9e en catégorie KF3.
C'est des grands débuts. Donc voilà, alors je sais pas si messieurs vous avez quelques dernières questions sur notre invité, mais je vous rassure, hein, il reste avec nous jusqu'à 23h, c'est plutôt la bonne nouvelle. Chris peut-être, ou Alex, ou Michel, est-ce que vous avez un petit mot sur le karting en général, sur lui, sur Antoine, sur ses loisirs, ce que vous voulez, c'est le moment.
Bah, sur ses loisirs, on aura l'occasion de les connaître un peu plus, puisqu'on reste, on a parlé de la concurrence, on a parlé de ses perspectives de saison. Il nous a effectivement dit quels étaient ses objectifs-ci, donc je pense qu'on a été relativement complet par rapport à cette saison-ci. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, évidemment, c'est d'avoir la réussite. On suivra, nous, attentivement ses résultats, quelque part. On les suivra via des vidéos. Si on peut parfois se déplacer, on le fera. Et on te souhaite bonne dans ton initiative en tout cas. Et quant à toutes ses autres passions, outre sa discipline, je suppose qu'il nous en parlera un peu plus durant le courant de cette émission.
Merci beaucoup.
Et Alex et Michel, il reste encore 1h20, donc je pense qu'il y a le temps de la terre et dessus.
Je crois qu'il nous avait dit qu'il était qu'il était un suiveur de la Formule 1 notamment, donc il aura bien évidemment son mot à dire sur l'actualité.
Comme tout le monde.
Comme tout le monde, bien évidemment. Donc l'actualité de Formule 1, entre autres. Michel et Alex, si vous avez un petit mot, c'est maintenant, sinon je te recède le terrain. Il y a un petit mot de Michel.
Puis, vite fait, je sais pas si vous en avez parlé la dernière fois, mais est-ce que le poids du pilote, enfin du conducteur karting, joue un rôle important en course?
Il y a un poids minimum à respecter dans chaque catégorie, donc si on est trop lourd, forcément... C'est embêtant, mais la plupart des pilotes sont obligés de mettre du plomb sur le cap pour être au point.
D'accord. C'est tout.
Est-ce qu'il y a des petites tricheries, style, comme on voit, notamment on en avait en Formule 1, mais dans d'autres disciplines, sur le poids. On sait notamment qu'en Formule 1, ils essayent de prendre le maximum de déchets sur la piste pour augmenter le poids au niveau des pneus. Est-ce qu'on triche un petit peu aussi là au niveau du karting? Je crois pas, non.
C'est vrai que dans le dernier tour, dans le tour de décélération, on passe dans la terre, on met les roues dans la gomme pour essayer de récupérer un peu du poids. Mais bon, ça fait pas 5-6 kilos, quoi. Et puis, ça fait peut-être 500 grammes. Et 500 grammes sur la piste, ça suffit pas à faire les différences.
Et il faut savoir qu'en Formule 1, ils ont fait ça depuis qu'il y a eu le changement pneumatique. Avant, c'était beaucoup moins fréquent. C'était depuis qu'il y a eu cette usure des pneumatiques qui a provoqué beaucoup plus de déchets sur la piste. Précision utile. Avant de recéder le témoin à Mathieu. Ce que je viens de
dire. Oui, c'est vrai que les F1 maintenant ont le choix d'aller où elles veulent hors trajectoire pour récupérer de la gomme. C'est clair qu'il y en a un paquet. Alors, justement, si tu veux faire la transition, c'est le moment. Est-ce que cette année, les pneus Pirelli vont s'user d'une façon spectaculaire comme l'an dernier? Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on le sait, Pirelli apportera des pneus plus tendres en 2012, et surtout en fait le pneu tendre jaune de 2011 correspond maintenant au niveau du mélange du pneu médium blanc. Donc normalement, si j'ai bien compris, mais je pense que oui, on aura sur tous les grands prix de pneus médium blanc sur toutes les courses, car maintenant le pneu tendre jaune est beaucoup plus tendre, mais a quand même un écart un peu assez serré entre 6 et 8 dixièmes avec le pneu médium blanc. Donc normalement, on devrait avoir plus de stratégies, plus de spectacles, plus de choix disponibles. Donc en termes de stratégie, ça devrait être assez intéressant à suivre. Et bien sûr, pour l'instant, on ne peut pas encore faire de conclusion. On attendra de voir, car pour l'instant, nous sommes lors des essais hivernaux. Et c'est Barcelone, cette semaine, après Jerez et les deux semaines. On avait quitté certaines équipes en haut de la feuille des temps, d'autres en bas. C'est un peu le moment pour faire une comparaison par rapport à la première séance d'essai. J'ai fait, moi, une sorte de petit classement, messieurs, on verra si vous êtes d'accord avec moi. D'abord, on va commencer par revenir sur les trois premières journées qui se sont écoulées mardi dernier, 21 février. Tout simplement, je sais que ça va faire plaisir à Antoine. Sébastien Vettel a signé le meilleur temps en 1:23.265 sur le tracé de Montmélo en 79 tours. Hein, et le classement est le suivant. Il devance Hülkenberg de 1 dixième. Lewis Hamilton, 3e de 3 dixièmes. 4e, Daniel Ricciardo à 3 dixièmes aussi. Ensuite, Fernando Alonso à 8 dixièmes, tout comme Michael Schumacher. Perez à 9 dixièmes. Donc les 7 premiers en 1 seconde seulement. Bon, c'est intéressant hein, si on veut comparer en termes de différence de temps. Après, on commence à faire un petit trou avec Bruno Senna, 8e à 2 secondes 5 de Vettel. Comme Kovalainen, 9e à 2 secondes 7. Il a fait que 31 tours lui. Romain Grosjean, 10e avec seulement 7 tours, forcément, hein, c'est la grosse info de la scène, à 3 secondes 5 de Vettel. Et Charles Pic, qui a accumulé 121 tours, a terminé à 4 secondes 7 de Sébastien Vettel. Il était là surtout pour apprendre, comme il l'a dit, avec la voiture 2011.
Ouais.
Alors, première impression, eh ben Red Bull Force McLaren, au cours de Toro Rosso, qui se tiennent en 3 dixièmes pour l'instant, elles sont en tête de la hiérarchie. Je les ai mis dans mon top aussi, hein, de cette première partie, de cette séance à Barcelone. Vos avis.
Oui, on peut dire ça effectivement. Maintenant, il y a d'autres enseignements, la surprise de Force India. On peut dire aussi que Ferrari est un petit peu décevant, même si bon, ils sont pas trop loin du top. On a vu que du côté des Marussia, Virgin, enfin maintenant, faut dire Marussia, c'est
avec la monoplace 2011 aussi, alors.
Ouais.
Bon, certes, ils ont pas les diffuseurs soufflés, ni de Kerr, ni ils ont juste le DRS, je crois. Donc bon, ça, c'est pas comme Mercedes ARS qui avait une monoplace de 2011 avec encore quelques spécificités de 2011, diffuseur soufflé, l'aileron avant un peu plus haut que la moyenne. Donc,
Ouais, ben, on peut dire branle-bas de combat quand même. Hein. Enfin, franchement, au niveau de la préparation, c'est pas top. Hein.
C'est bien. Ce qu'il faut faire attention, moi, ce que je redoute, c'est que Force India nous fasse un peu un coup à la Sauber comme l'an dernier. C'est-à-dire faire de bons essais hivernaux, montrer que voilà, la voiture est rapide. Mais après, en saison, être moins rapide et se faire devancer par Force India qui, elle, était un peu, un peu comme Sauber actuellement lors de ses essais. Donc peut-être Sauber peut créer la surprise.
Ah oui, non. Mais en prélude de tous les résultats, je dirais, hivernaux, on peut se rappeler la saison dernière, je trouve qu'on avait été un peu trop hâtifs sur nos jugements, parce que ce n'est pas toujours révélateur. Alors c'est une grosse indication. J'ai l'impression, on pourrait imaginer ça en disant que, quelque part, les tests hivernaux, c'est un peu comme les sondages. Ça ne fait pas une élection comme les tests hivernaux ne font pas la saison. L'année passée, moi je me souviens, Ferrari était beaucoup plus proche de Red Bull et on s'attendait à une lutte acharnée entre les deux. On a vu l'écart gigantesque qu'il y avait en début de saison. C'était vraiment terrifiant. Donc, quelque part, il faudra toujours raison garder. En sachant que, comme tu l'as dit, il y a des monoplaces qui sont à des degrés de préparation différents. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même si c'est amusant de faire ça, même si on a la passion, évidemment, pour comparer ça, le jeu des comparaisons, il faut faire très, très attention à ça. Parce qu'effectivement, il y a des écuries qui ont des objectifs différents. Il y en a qui veulent viser sur certaines journées, on fait véritablement des bons chronos. Sur d'autres, on teste un peu des réglages. Donc prudence par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en général, en première journée, on a vraiment envie de faire le meilleur chrono pour se rassurer. Ça, c'est une évidence. Et c'est pour ça que ce premier jour était déjà très intéressant.
Alors, avant de revenir sur la séance, on va parler de Mercedes qui arborait donc sa nouvelle monoplace, la Mercedes AMG W03. On va se faire les résultats juste après, mais justement, c'est l'occasion d'en parler. Hein, c'était la dixième monoplace à se dévoiler, c'est le bon compte, lundi dernier. La principale information, le nez passé comme tout le monde, voilà, ça reste normal. Et surtout, une sorte d'innovation qui n'est pas visible à l'œil nu, enfin, n'est pas visible grossièrement, mais c'est leur système de surnommé double duct. C'est un S-duct assez différent de celui de 2010 qui devrait apporter moins d'appui que le système de McLaren. Tout simplement, c'est une entrée d'air dans le museau avant. Et en fait, pour faire simple, parce que c'est très compliqué, hein, il améliore sur l'ensemble de l'aileron avant le comportement de celui-ci en ligne droite et en virage aussi. C'est un système très complexe. Une vidéo qui a circulé, sur Internet, sur le site nextgenauto.com. Vous pouvez le retrouver dans les news de la semaine. C'est assez complexe, mais en tout cas, bon, Mercedes a proposé cette solution-là. Ça va certainement les aider sur le comportement de la monoplace. Tout d'abord, messieurs, donc un petit avis sur cette nouvelle Mercedes et sur l'objectif sportif de l'équipe allemande.
Bah, je vais, Michel, avant Mathieu, je vais te demander évidemment pour la qualité de nos éditeurs qui veulent t'écouter avec intérêt et passion, comme tous les jeudis soirs. Je te signale que nous ne t'entendons pas très très bien depuis quelques secondes, donc je suis sûr que tu feras le nécessaire. Le magicien du micro que tu es saura faire le nécessaire. Je crois que pour la partie technique, évidemment, Michel s'exprimera mieux que moi dans quelques secondes, mais de manière globale sur la physiologie de cette équipe, on a vraiment l'impression qu'ils veulent se rattraper le retard. Moi, j'ai l'impression que les risques qu'ils ont pris, ça a quand même été un peu douloureux, dans le sens où il y a un retard aussi de préparation de la voiture. On a vu quand même que franchement, je suis désolé de dire que au niveau du design, je suis pas tout à fait convaincu. Maintenant, les risques au niveau purement sportif et au niveau des performances, je crois que ça peut prendre la mayonnaise. Parce qu'ici, on a vu quand même que les résultats, c'est significatif. L'année passée, ils étaient vraiment voilà un peu dans le ventre mou, juste derrière les meilleurs. Je ne suis pas sûr que pour le titre, ça risque de le faire, mais je pense qu'ils pourraient se mêler à la lutte avec Ferrari. Et pourquoi pas McLaren, si c'est vrai que derrière Red Bull, ça se regarde un petit peu comme la saison dernière. Mais je crois que, je ne sais pas ce qu'en pensent mes amis, mais je pense que ça peut être en effet intéressant de suivre leur évolution. Et disons qu'on ne peut pas leur reprocher un manque d'audace, ça c'est évident. Ils ont été très audacieux, je trouve.
Et tout d'abord, en fait, la principale interrogation, c'est en 2010. Puis en 2011, hein, Mercedes s'annonçait comme un concurrent sérieux au podium à la victoire. Ben, en 2010, c'était plutôt une grosse déception par rapport à 2009, mais ils ont quand même que 3 podiums. En 2011, c'est catastrophique par rapport à même à 2010. Alors, en 2012, j'ose imaginer, hein, si vous voyez où je vais en venir, mais normalement, ils ont l'occasion justement de se rattraper avec ce système de W-Duct et puis de Miller, un peu mieux, qui pourrait les aider un peu plus. Ça va être une interrogation, mais on espère pour eux, bien sûr, hein, qu'ils puissent se battre pour le top 3 comme l'a annoncé Russell Brown. C'est un objectif assez audacieux, assez optimiste. Mais bon, on ne sait jamais. La principale interrogation, c'est qu'ils vont faire confiance encore une fois à Michael Schumacher. Ils lui ont proposé à peu près de 2 ans supplémentaires où Nico Rosberg pourrait être un peu plus mis en avant. C'est encore une fois tout le problème de cette mission des deux pilotes.
Michel,
En 2010, il faut rappeler que la Mercedes, à part un nouvel aileron avant et puis peut-être une nouvelle entrée de fer au Grand Prix d'Espagne, c'était presque quasiment la bonne GP de 2009 et elle en avait encore sous le pied. Donc, ce qui explique les podiums en début de saison. Donc, on peut pas vraiment comparer cette saison de la saison 2011 à la saison 2010, étant donné que Mercedes a fait une voiture un peu différente que celle de 2010. C'est 2010 et c'est une évolution de place de la Brown GP victorieuse en 2009.
C'est vrai. Antoine, on va poser la question. Antoine, qu'est-ce que tu penses de cette Mercedes et surtout la gestion des potes, des objectifs et tout ça, comme d'habitude?
Je suis bien heureux les essais. Je crois que la Mercedes est sortie quand même assez tard par rapport aux autres voitures. Après, pour moi, les essais privés, les essais du Imola, pour moi, ça veut dire grand chose. Il faut vraiment attendre de voir la première course pour un moment sur les équipes. Ce qu'on voit l'an dernier, des voitures qui étaient rapides, vraiment très rapides dans l'essai Imola et qui ensuite sont retrouvés derrière. Donc moi, j'attends vraiment l'Australie en mars pour voir la vraie hiérarchie.
Oui, ça, c'est sûr que tout le monde dit ça, mais bon, je pense que c'est quand même, c'est un peu important de suivre l'évolution des équipes. Après, pour ça, enfin, pour pas trop me mouiller, j'ai décidé de les comparer entre Jerez et Barcelone, mais entre elles, forcément, où est-ce que au niveau du classement, parce que je pense que c'est peut-être la seule comparaison possible. Hein, je pense qu'on ne peut pas encore forcément comparer les équipes entre elles. Moi, je suis obligé de travailler leur programme dans leur côté. Et après, on verra à Melbourne, nous se situeront par rapport aux autres. Donc, pour Mercedes, voilà. Donc, bah, si tu veux, Michel, un petit mot. Tu pouvais tout à l'heure.
Oui, ben bon, je ne connais pas trop les caractéristiques de la Mercedes. J'ai l'impression que leur battement a un petit peu augmenté. Bon, je pense que dans les virages, dans les courbes rapides, ça va aller un peu mieux. Bon, après, globalement, il faut attendre vraiment l'Australie pour connaître les vraies capacités de la Mercedes. Bon, j'ai pas de doute. Hein. Je pense que ça va aller mieux que par rapport à l'année passée. Il n'y a aucun souci là-dessus, je pense.
Oui, bon, ça c'est sûr. On va attendre de voir aussi.
Mais... Ils ont fait une bonne fin de saison 2011, hein, donc ils ont dit qu'ils ont mélangé dans leur Mercedes W03 un peu de ce qu'ils ont acquis en 2010, un peu ce qu'ils ont acquis en 2011, du tout, c'est qu'ils ont acquis la bonne chose pour faire la voiture pas parfaite, mais qui peut se battre pour une victoire sous la pluie, parce qu'on a vu que le Schumacher était vraiment rapide déjà à Spa-Francorchamps quand il est parti dernier, et puis aussi au Canada, où là, il voit plus le podium. Sa Mercedes était un chouïa plus rapide que le Red Bull.
Ouais. Parce que sûr, c'est que les ressources, les moyens nécessaires pour développer, pour revenir un peu dans la situation, alors qu'il s'est complètement perdu au développement l'an dernier. Là, cette fois, ils ont des ressources, et j'ai lu un peu sur les magazines, tout ça, que bon, bah, Mercedes aurait vraiment trop de confiance à Schumacher, alors que Rosberg aurait été un peu mis de côté, en gros, si je puis dire. C'est compliqué tout ça, mais pour moi, vraiment, Rosberg est la pièce élémentaire de cette équipe Mercedes, celle qui fera avancer l'équipe. Alors bon, j'espère pour elle qu'elle arrivera à faire les bouts, je vois.
On a l'impression que Mercedes fait un concours de contorsionnistes, on a l'impression qu'ils sont en grand écart permanent. Alors moi, j'adore Schumacher, c'est pas la question, moi je... Bon, évidemment, j'étais un fan de lui, donc c'est évidemment objectif et même je trouve que c'est louable de le reconnaître. Comme ça, ça pose les débats tout de suite. Mais c'est vrai quand même qu'on peut se demander s'il devrait pas trancher. On a l'impression que d'un côté, c'est vrai qu'on a un multiple champion du monde qui amène une expérience, mais on sent vraiment que sportivement, au niveau physique, il ne pourra pas s'améliorer au fil des années. C'est évident, c'est même le contraire qui peut se passer. Nico Rosberg, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on a l'impression qu'il se Jenson Buttonise un peu, où c'était le grand espoir de la Formule 1. On se souvient qu'il avait tout pour lui, parlait beaucoup de langues, etc. On a l'impression qu'il stagne un petit peu. Alors c'est vrai que bon, il y a ce choix qui n'est pas le sien, évidemment, d'avoir ramené Schumi. Donc c'est un petit peu problématique pour Mercedes à ce niveau-là, l'encadrement. Je dirais que à la limite, tant que l'ambiance entre les deux est bonne, et tant que l'ambiance est constructive et elle peut permettre de faire évoluer la voiture avec les conseils et l'expérience de Schumi d'un côté, avec la jeunesse, le talent et la marge de progression de Rosberg de l'autre, ça peut le faire, mais j'ai l'impression quand même que tout ça, ça ne tient qu'à un fil. On a l'impression que ça peut clasher entre les deux, et on sait ce que ça peut faire, des clashs dans des écuries. On va pas rappeler ce qui s'est passé dans d'autres écuries, on va pas citer de nom, on a dit on va pas être méchant, donc on va pas citer de nom.
On peut dire que Rosberg et Schumacher sont complémentaires. Rosberg est bon sur les débuts de saison et Schumacher est bon sur les fins de saison.
Bah, c'était le cas les deux dernières années. Alors justement, la petite question Facebook du jour, Mathieu. Chers amis auditeurs, vous pouvez évidemment répondre à cette question. Elle est très simple. Mercedes peut-il, selon vous, inquiéter les Ferrari et les McLaren cette saison? Évidemment, c'est pas précisé, mais c'est cette saison.
Donc cette année. Red Bull, par contre.
Non, je n'ai pas mis Red Bull parce que je pense que déjà si Mercedes arrive au niveau des Ferrari et des McLaren, je pense que ce sera déjà très très bon pour eux. Et je pense que Red Bull, très peu, objectivement, pense que ça pourrait être le cas sur le long terme. Mais par contre, moi, je suis très, très, très curieux de savoir ce que pensent nos amis auditeurs sur justement le fait que Mercedes, le niveau de concurrence par rapport notamment au Ferrari et au McLaren durant cette année 2012. Moi, j'attends de voir leur réponse avec impatience.
Déjà, pour comparer, il faudrait qu'on attende Ferrari qui trouve enfin comment ils règlent leur voiture. Parce qu'ils ont l'impression qu'on leur a livré la voiture sans le manuel d'explication qui va avec. Donc,
ouais. Bah, comme on disait, c'est une sorte de Lego. Donc, dans la de Lego, il y a le manuel normalement, mais ils ont peut-être perdu en route.
On parle bien sûr de potentiel. Alors, notre invité du soir, évidemment, Antoine Hubert, je suppose que tu as un avis par rapport à ça, okay, par rapport à Schumi, bien évidemment, par rapport à Mercedes et à ses équipes du top. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, même si c'est difficile de se projeter, mais qu'est-ce que tu penses des perspectives de l'équipe allemande?
Pour moi, Schumi, c'est un pilote. Après, il est en face de lui, Rosberg, jeune, qui est pour moi très bon aussi, si ce n'est meilleur que lui actuellement. Schumacher, je suis pas fan, même si c'est un très bon pilote. Mais pour moi,
fan de Vettel, hein, je la rappelle.
Plus Vettel, mais même entre Schumacher et Rosberg, je fais plus Rosberg. Pour moi, il est quand même plus rapide.
Enfin, c'est sûr que Schumacher, en fait, il sort ses finalités. Un peu trop pour lui, forcément, qui veut un peu après bâtir son équipe avec lui. Mais Rosberg est là, ça n'a rien à voir avec Barrichello, avec chez Ferrari. Rosberg est vraiment, pour moi, l'élément essentiel de l'équipe. Et c'est vraiment vers lui qu'elle doit se tourner pour développer sa voiture, parce que Rosberg, dans l'ensemble, est meilleur que Schumacher.
Ouais.
Et ça a été le cas les deux dernières saisons.
Bah, la grosse différence, objectivement, je dirais, si on analyse uniquement les courses, bien sûr, on a tous nos perceptions avec plus ou moins de crédibilité. Le plus étant évidemment réservé ici à Antoine, puisqu'il a plus d'expérience que nous, bien évidemment. Mais objectivement, la grosse différence entre les deux ces deux dernières années, c'était les résultats. Parce que par exemple, si on s'amuse à calculer les temps en tour, ils sont très proches, relativement très proches. Si on s'amuse à calculer les positions dans le top 10, les meilleures places durant les courses, c'est-à-dire les nombres de fois où Schumi était et Rosberg étaient dans le top 5 durant une course, etc. C'est très très équilibré. Je dirais même qu'au niveau des meilleures places, petit avantage à Schumi. Mais ce qui fait la différence, par contre, véritablement, le grand creux qu'il y a entre les deux, c'est la régularité. Je pense pas que c'est vraiment l'un qui soit plus rapide que l'autre. Schumi fait vraiment encore, peut-être moins l'année passée, mais il y a 2 ans, il a fait énormément d'erreurs. L'année passée, il a fait quelques erreurs, il a eu aussi pas beaucoup de chance, mais bon, tout ça, ça compte aussi, évidemment, dans une écurie. Et il est manifeste et clair que Rosberg a plus de points en fin de saison que Schumi. Alors, est-ce qu'il est plus rapide? Objectivement, si je me base sur les résultats de cette année, si j'analyse, je dirais que non, mais ça pose vraiment une question. Et puis, on peut aussi dire place à la jeunesse, quelque part. Moi, on peut respecter tout à fait Schumi, mais se dire, est-ce qu'il peut encore amener? Alors, je suis très surpris par la question au sondage. Parce que je sais que beaucoup de nos auditeurs sont fans de Ferrari, est-ce que c'est parce qu'il y a cette crainte d'une mauvaise déception du côté de chez Ferrari? Le oui l'emporte très largement. Donc, selon une majorité de nos auditeurs, Mercedes peut inquiéter les Ferrari et les McLaren durant cette année 2012.
Je vois qu'ils se sont lâchés, ouais, c'est sûr. Ça fait plaisir à voir, nos amis auditeurs. Enfin, tu as peut-être pu dire... Soit Ferrari, soit McLaren, les deux. Enfin bon, on peut peut-être plus nuancer parce que c'est vrai que McLaren a vraiment l'air un niveau au-dessus de Ferrari. Donc c'est difficile de faire ce sondage-là en mettant les deux équipes dans le même sac. Bon. C'est un avis.
Je me basais, alors juste je me justifiais par ça, je me basais surtout sur le classement de l'année passée où on sentait que c'était la lutte pour la deuxième place. Autrement dit, Mercedes qui était quatrième, est-ce qu'il peut rejoindre la lutte pour la deuxième et la troisième place, hein? Est-ce qu'il peut viser plus haut? Et plus haut, c'est la lutte qu'il y avait eu entre Ferrari et McLaren pour la deuxième place. C'est pour ça que j'avais pas mis de Red Bull, parce que Red Bull était largement, était pas un ton au-dessus de Mercedes, mais était 2 tons la saison dernière. Voilà donc, Mathieu.
Et faut pas oublier Lotus F1, hein.
Oui, ça c'est notre, justement, tu viens d'en parler, on va en parler, hein, c'est la grosse info de la semaine. Dans cette première journée, gros coup de théâtre dans le piment de la Formule 1 Barcelone, le plus F1 team que c'était Romain Grosjean, et ben, il a dû prendre pas mal dès la mardi de la première journée, tout simplement. Après 7 tours, il avait commencé un rôle un peu plus long, et là, il a senti quelque chose bon, sur sa voiture.
les rentrées, ils se sont aperçus d'un problème sur le châssis. Alors, ils n'ont pas du tout pu penser que c'était réellement, enfin, on ne le sait pas nous, c'est normal, hein, leur secret, on peut tout simplement dire qu'ils ont dû tout emballer et rentrer dans l'usine pour effectuer la réparation. Et comme ils avaient deux châssis, celui de Jerez et celui de Barcelone, ils ont fait la modification sur les deux châssis pour être plus en sécurité et être là la semaine prochaine, donc plus sereinement, et pouvoir continuer le développement. Ils ont passé 4 jours, ça c'est quand même beaucoup. Mais... en termes de développement, ça va être assez compliqué, mais ils auront un jour de plus à Silverstone le 27 février prochain. Et ça a été donc confirmé. Alex, un petit mot dessus.
Oui, c'est déjà un gros coup de théâtre, parce que personnellement, moi j'attendais ce dossier pour voir réellement où ça en était avec Lotus. Moi, la question, c'était juste pour savoir si, là, mais tu as répondu à ma question, s'il pouvait rattraper les 4 journées d'essai, ou les 3, parce qu'ils en ont disputé une. Et donc, ils disputeront qu'une séance à Silverstone. Je pense que c'est un peu un défaut, c'est vraiment, un désavantage, parce que Raikkonen, il a besoin d'engranger des kilomètres avec les pneus Pirelli, même s'il commence à peu avoir un seuil, c'est quand même important. Et puis Romain Grosjean aussi, pour qu'il soit pas à la saison, donc ça peut être décisif. Ils vont peut-être perdre un peu de temps, et donc, par exemple, continuer leur développement en Australie, alors que certaines écuries, eux, ont déjà fini le développement pour les 3 premières courses.
Alors justement, messieurs, donc oui, Alex, semaine de perdu, un jour de retrouvé, bon, le temps n'est pas le même, mais tout ça, c'est perte de temps, c'est assez important, et le retard commence à se faire sentir. Alors, vous n'avez pas été non plus dans la grande urgence cette semaine, même si quand même c'est important, est-ce qu'on pourrait aller voir avec un certain temps de perdu des Melbourne, même s'il restera encore quelques jours à l'usine avant le début de la saison.
Ouais, je pense qu'au final, ça ne sera pas trop grave. Ça peut les pénaliser durant le premier, voire les deux premières courses. Ça, c'est évident. Hein. Ça aura un impact à hauteur de 0,1 à 2-3%, évidemment, voire à 10% peut-être. Mais pour les premières courses, mais je dirais que sur l'ensemble de la saison, évidemment, ça ne s'arrêtera pas là. Bah, disons que contrairement aux autres, ils auront moins la chance d'expérimenter. Et Dieu sait qu'on sait que c'est très très important l'expérimentation. Surtout que depuis peu de temps, dans l'histoire de l'échelle de la Formule 1, on ne peut plus rouler comme on veut. Donc, mais saluons quand même. Moi, je voudrais dire quand même un petit mot là-dessus. Moi, je trouve que, alors, on parle toujours de fair play, alors on parle de clash dans les sports, de mort dans des stades de sport, etc. Je pense que c'est très bien de saluer. Et encore une fois, on en revient à ça. Je trouve qu'il y a toujours, évidemment, parfois des incidents, il y a parfois des déclashs. Mais la Formule 1, c'est le dernier, c'est, je pense, l'un des derniers sports, du moins, où les gladiateurs se respectent, et je crois les meilleurs au monde arrivent à se respecter. On ne voit pas des tensions comme on peut en voir dans nombreux sports, collectifs s'entend bien, et je trouve ça vraiment très, très génial, où on est très souvent dans des questions d'ego et de narcissisme. Bien sûr, il faut évidemment un petit peu d'égocentrisme et un petit peu de narcissisme pour réussir en sport automobile et bien sûr en Formule 1. Mais je trouve que voilà, le respect est là entre les écuries. Franchement, c'est louable ce qui a été fait. Je suis pas certain que dans aucun autre sport, dans une échelle comme ça, des écuries décident de laisser une équipe qui a été pénalisée par la malchance rouler un jour de plus ou faire une fleur à un adversaire. Je pense que c'est très très louable et félicitations encore à la F1. De nous offrir des moments de fair play et des moments agréables, je trouve. C'est pour ça qu'on peut être fier de suivre la Formule 1 quand on a des petites choses comme ça, mais des choses très agréables.
Le message est assez triste. Tu as eu raison. On va poursuivre sur les essais. Donc, cette première journée, je l'ai dit, le top pour moi, Red Bull, Force India, McLaren, Toro Rosso. C'est aussi ce que j'ai mis dans mes points positifs de cette semaine en général. Le point négatif, forcément, Ferrari. Lotus, à cause de cet incident, Caterham et Marussia sur le magin bras, et en stagnation, Mercedes, sur combien de semaines, forcément, on n'a pas trop d'avis. Alors, j'avais mis Williams en négatif, et puis, on va voir qu'il dans quelques instants, Maldonado vient signer le meilleur temps aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est réservoir vide, tout n'est pas attendre, ça se pourrait, mais en tout cas, il nous a fait une sacrée surprise.
Oui, alors, je te confirme, hein, c'était très, très, très tendre, pardon, les pneus. Je te le confirme.
Mais,
Ouais. bah, Bah Mathieu, regardant 2010, t'avais Rubens Barrichello qui avait signé le meilleur temps à RRS, pourtant il sera fait ça. Pourquoi William sur 2011 hein.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, donc pour Maldonado, attention peut-être à lui. On va attendre de voir.
Il va marquer 10 points, et puis la saison prochaine, ce sera bon avec le moteur Renault.
Ouais, mais Bruno Senna, quand il a le petit coup de gueule quand même, hein, il sentait que la voiture était encore en rodage, il avait du mal à avancer pour le programme. Donc ça, c'est forcément assez inquiétant. Donc pour ça, Maldonado va essayer de se rassurer, comme un peu Alonso la semaine. Et le vendredi était le meilleur temps, c'est un peu similaire pour Maldonado. Mais en tout cas, vraiment, je vais poursuivre le deuxième jour, une confirmation. Nico Hülkenberg qui fait le meilleur temps avec 112 tours au compteur mercredi devant Sergio Pérez, 40 millième seulement, donc très faible. Et on retrouve ensuite Vettel 3e à 2 dixièmes, Alonso 4e à 5 dixièmes, ensuite Ricciardo 5e à 1 seconde, Hamilton à 1 seconde, 1 Rosberg à 2 secondes, Bottas, le pilote finlandais réserviste de Williams, 8e à 3 secondes, Petrov qui effectuait son début avec Caterham à 4 secondes de Hülkenberg et Charles Pic qui poursuivait son apprentissage dernier avec 108 tours et 4 secondes 7 de retard, tout simplement. Hülkenberg, grosse satisfaction. Alors, Force India a l'air encore une fois de poursuivre sa séduction auprès du public. Hein, Force India, grosse performance, grosse satisfaction. Pourquoi pas l'épouvantail de ce début de saison hein, sur la lancée d'une saison dernière saison. Hein, c'était en train de rattraper Lotus, Lotus Renault Grand Prix. Et là, cette année, pour l'instant, Nico Hülkenberg mène grand train avec cette Force India 2012. C'est assez bon signe quand même.
Bah déjà pour Nico Hülkenberg, hein, parce qu'il nous avait prévenu, il allait nous dire oui, les trois premières courses, voire les cinq premières courses, je ne pourrais pas vraiment montrer mon niveau car il faut que je me réhabitue. Et puis bon, bah, là, ça, il commence vraiment à se réhabituer et j'ai hâte de le voir là cette saison parce qu'en 2010, il m'avait beaucoup impressionné ce jeune Allemand.
Allez, proposition au Brésil en 2010, on se des conditions assez particulières. Nico Hülkenberg, Sergio Pérez, donc de cette deuxième journée. C'est la jeunesse opposante devant Vettel et Alonso. Par contre, même si Ricciardo a semblé toucher d'assez bon temps, en 4e puis 5e, le gros point noir, c'est les trop de drapeaux qu'il a causé ces deux jours-là. Hein, c'était lui à avoir interrompu la séance à plusieurs reprises. Donc c'est beaucoup de soucis de fiabilité. Donc bon, c'est de quoi se poser la question, même si Jean-Éric Vergne, ça s'est bien passé pour lui aujourd'hui. En tout cas, voilà, Ricardo va souffrir quand même. C'est inquiétant. Et Mercedes aussi au garage lors de toute l'après-midi, lors de ce mercredi. Donc ces deux équipes ont eu des soucis. Bonne nouvelle par contre, Sébastien Vettel, ça c'est important. Sébastien a pu faire un run 15 tours consécutifs avec un train de pneus dur. Pour l'anecdote, il a dépassé Lewis Hamilton sur la piste. Ça a fait l'objet de quelques articles, commentaires hein, sur Internet cette semaine. Et alors, Vettel était sans doute plus lourd que Hamilton. Et il l'a dépassé assez aisément sur la ligne droite. Ils ne sont forcément pas opposés. Hamilton n'a pas défendu sa position. Donc, en effet, on se rassure, mais en tout cas, c'est assez sympa à voir pour ceux qui étaient sur place. Je pense à nos amis Damien, entre autres, qui sont là-bas.
Sandra, Roxane.
Tu vois, en ce moment, Sébastien Vettel, durant ces hivernaux, il a fait des batailles. Hein. Il s'était déjà battu avec Romain Grosjean parce qu'il ne voulait pas les laisser passer. Hein, donc,
Oui, c'est vrai.
Là, un tour manque, là.
Donc, dans les 40 points en mesure avec des temps en c'est la principale information positive à retirer. Est-ce que les autres, forcément, on ne sait pas trop, mais là, c'est assez intéressant à souligner. Je rappelle, bon, ils ne font pas 40 tours en course. Hein, pour le Grand Prix de Barcelone, c'est 66 tours. Donc, a priori, il en fera quand même moins, ouais. Mais bon, il a pu rassembler des bonus.
En tout cas, Ricciardo qui n'a pas beaucoup roulé quand même, hein, qui classe pas trop mal. Et moi j'avais une impression à l'issue de cette deuxième journée, mais je sais pas ce qu'en pensent mes amis, mais j'avais rarement vu Alors, bon, évidemment, j'ai peut-être mauvaise mémoire, mais j'avais rarement vu, voilà, des indécisions, et des places aussi surprenantes, même en période d'essai hivernaux, une hiérarchie qui n'est pas du tout respectée, ça part dans tous les sens en fonction des jours. On vient de parler de Maldonado tout à l'heure en plus. Franchement, c'est assez étonnant. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. On a l'impression que le pourcentage de certitude dans les écuries est bien plus inférieur pardon, que les années précédentes. Je sais pas si Michel, tu as un avis par rapport à ça.
Si je prends le cas de Force India, les gens qui font un essai privé là en ce moment, ils roulent plus vite qu'en course, qu'en qualification. Par exemple, l'année dernière en Espagne, les Force India en qualification faisaient du 1-24-3, 1-24-6, donc 1-24-3 pour Paul Di Resta et 1-24-6 pour Sutil hein, dans les temps en qualif. Et là, ils sont beaucoup plus rapides. Que c'est les pneus ou est-ce que c'est simplement la voiture, donc ça je sais pas, c'est clair que les pneus jouent un rôle important hein. On verra ça cette saison hein, en Grand Prix d'Espagne hein, qu'est-ce que ça va donner,
faut qu'on part
en tout cas ils sont plus rapides que l'année dernière hein, ça c'est sûr.
Pourquoi pas la stat du soir Michel, tu nous as sorti une stat
bon. Je prends le cas de Force India, qui a de plus flagrants, mais après, pour les autres, ah, alors, oui, ça doit être globalement pareil.
Mais bien sûr, je rappelle que
regardez, ça reste qu'il n'y aurait qu'une différence par rapport à une 19 ans passé. Donc, à mon avis, il y a des pneus qui jouent un secteur important. Donc, faut pas trop s'enflammer. Hein. Je pense que, à mon avis, on peut pas s'enflammer.
C'est par rapport à la qualité du Grand Prix, il faisait plus chaud, les conditions étaient optimes. C'est peut-être un peu plus intéressant, c'est vrai. Mais tu es d'accord? Oui, voilà. Et bon, faut que des chiffres.
Mais bon, c'est quand même assez important. Hein, surtout que là, en ce moment, il fait froid. Tant de mettre la température et tout, c'est vraiment assez impressionnant.
On a eu cette discussion il y a deux semaines. Et Bruno Senna et Christian Horner sont un peu plein de température froide qui est présente à Barcelone. J'espère pour ma part que la semaine prochaine il fera bien plus chaud. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu le souci. Bon, c'est le pays le plus chaud normalement à cet instant de l'année en Europe. Comme les équipes sont en Europe, hein, bien sûr, on ne peut pas se rendre à Abu Dhabi ou à Bahreïn, ça serait trop cher ou des morts. C'est pareil. Donc, Hülkenberg, meilleur temps, et aujourd'hui, coup de théâtre sensationnel, événement Pastor Maldonado, si le meilleur temps, 1:22.391, il est même le plus rapide pour l'instant de toute la semaine, avec 106 tours, dont Michael Schumacher, 127 tours, plus performant, à une seconde du Vénézuélien. Normalement, on pense que le pilote où il était très dur, en plus de 30 ans, pardon. Et Michel, tu l'as confirmé. Troisième, Kobayashi à 1:01. Tom, quatrième à 1:05. Jean-Éric Vergne, cinquième à 2 secondes. À passer, ça entre Massa et Weber, même temps à 2:380 de Maldonado, même temps au millième près. Diresta, 8 à 3:02. Bloch, 9e, 3:07. Et Petrov, Caterham à 4 secondes. J'ai noté qu'il y a eu beaucoup de tours réalisés entre 70 et 127 tours, hein, une moyenne assez élevée, près de 100 hein, la moyenne, qui est assez énorme tout de même. Il a été de rendez-vous, mais par contre, si je pense qu'on enlevait le temps de Maldonado, c'est sûr hein, qu'il y a une sacrée avance, bah, les équipes sont plus ou moins serrées. En tout cas, c'est assez intéressant. C'est ce que Chris disait tout à l'heure. Que les cas sont très serrés, on ne peut pas vraiment faire de bilan encore, puisque les équipes cachent encore leur jeu et on peut encore s'attendre à d'autres surprises.
Il va falloir attendre longtemps, hein, parce qu'à mon avis, je pense que ce de la saison, on verra l'ordre de la hiérarchie, sûrement quand le Grand Prix Barcelone et après les quatre premières courses. Parce que bon, il peut y avoir coup de bluff, il peut y avoir les meilleures performances en les trois premiers GP de la saison, c'est arrivé pas mal de fois, bon, pas en 2011, parce que bon, Red Bull était trop rapide, mais cette saison, à mon avis, il y a beaucoup de possibilités
on va avoir beaucoup de luttes entre les différentes écuries. Le ton va être assez haut cette saison.
Et oui, et alors, messieurs, maintenant je pose la question, vous êtes d'accord avec moi? Pour l'instant, les tendances qui se dégageraient après cette séance d'essai, reste un jour demain, je le rappelle. Donc pour l'instant, Red Bull semble au top. Pour l'instant, ça c'est clair, mais on était le mardi et un relais de 40 points de dur, hein, ça m'a manqué. Donc on est d'accord, messieurs, Red Bull semble au top, tout comme McLaren, bon, qui était parti l'an dernier, semble au-dessus du lot. Même s'ils sont moins visibles pour McLaren, mais on devrait encore les retrouver au top cette année. C'est ça?
Ah oui, non, mais tout à fait. Non, mais ça, c'est évident. C'était quelque part la chose la plus attendue. Je dirais qu'en plus, parmi les équipes du top, Red Bull a été peut-être la plus régulière, même si c'est difficile de dire ça. Ça peut paraître audacieux de dire ça. Je trouve que, bon, ils n'ont pas été non plus très, très impressionnants, mais on n'attendait pas ça d'eux. Moi, j'ai l'impression qu'en réglant, évidemment, comme toutes les autres écuries, c'est le seul point où ils partent avec la même égalité que les autres, c'est-à-dire qu'ils partent un peu dans l'inconnu aussi, quelque part. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau des résultats, au niveau des performances, ils en ont encore sous la pédale, un peu comme l'année passée d'ailleurs. C'est assez amusant de voir ce parallélisme-là. Et franchement, c'est assez impressionnant. J'ai l'impression que c'est un peu la force tranquille Red Bull. Ça n'annonce rien de bon pour moi, j'ai l'impression. Enfin, rien de bon au niveau de la concurrence, c'est du suspense, oui. Hein, on s'entend.
Alors, Antoine, est-ce que tu es d'accord? On va encore retrouver Vettel au top. Ça semble se dessiner, par contre, hein, quand même.
C'est sûr qu'ils seront rapides, hein, avec les moyens qu'ils ont, etc. Ça m'étonnerait qu'ils se retrouvent d'une année à l'autre à la dernière place. Pour moi, c'est certain qu'ils seront loin. Après, je ne sais pas s'ils seront autant dominateurs que l'an dernier. J'espère que non, parce que ça a quand même un peu plus spectaculaire.
Comment qu'on puisse dire, on est sur Weber hein, qui puisse relever la tête et son niveau. Pour l'instant, bon, il est moins rapide que Vettel. Avec sa première journée à 24-7, Vettel 22-8 et 23-2. Son Weber sont moins rapide. Bon, on le sait, hein, le programme n'est pas le même, certainement. Demain, on en saura peut-être un peu plus. Donc, c'est sûr que si Weber pouvait être dans les premiers, c'est pas que ça les rassurerait. Bon nombre de fans. De l'équipe Red Bull, puisque c'est vrai que l'an dernier, on n'a pas eu la chance de voir Weber titiller son coéquipier allemand. Pour McLaren, donc, on est d'accord, allez.
Mais comment faut-il améliorer une voiture sur les Red Bull? Franchement, là, ils ont conquis dans tous les domaines en 2011 avec leur R2F, où on peut utiliser. Comment on peut encore améliorer une R2F qui est vraiment bonne dans tous les domaines par. Avec une RBU, parce que là, franchement, je vous dis, on va encore bouffer du Red Bull pendant quelques années, là encore. J'espère que Ferrari et McLaren vont en venir comme en 2010, on les avait vus en fin de saison un peu plus rapide que Red Bull, mais j'ai très peur, moi, encore. Je sens que le Toro, on va encore en bouffer, là, pendant quelques années. Hein.
Le Toro, c'est assez bon hein, à manger. Bon, pour la F1 de Ferrari et McLaren, ça semble assez...
Il ne faut pas trop abuser des boissons énergisantes.
Aussi. Ouais. Donc, oui, après tout, on le sait, la contrainte du règlement fait quelque chose de déposition. Niu est en train de le faire. Je pense qu'on n'a pas d'annonce officielle sur leur trouvaille. Et on ne devrait pas tarder. Leur système d'aération au niveau de la cassure du nez, une première, un premier point important. Et après, ça se situe, bah, pourquoi pas à l'arrière. Et on sera plus au fil de la saison. Pour l'instant, on est dans l'inconnu. Dans les plus, donc forcément, on est d'accord avec lui qui confirme encore, dire ça, qui tient la route. Ça pourrait être une grosse surprise de ce début de saison, en tout cas, à surveiller. Tout comme Sauber. J'ai mis Sauber, bon, entre parenthèses, dans les plus quand même, parce que, bon, Perez, deuxième temps hier, on peut se poser peut-être des questions aussi, puis je crois qu'il l'a fait dans les dernières minutes, si je me souviens bien. Donc attention, mais bon, Sauber pour l'instant semble assez solide par rapport à l'an dernier. Ils ont l'air de se maintenir. Kobayashi est 3e aujourd'hui, à une seconde de Maldonado, à 2 dixièmes, on va dire, de Schumacher, en occupant Pastor. Mais bon, pour l'instant, Sauber semble aussi confiant. Après, il faudra patienter. Dans les négatifs, oui,
vas-y.
Sur Sauber, non?
Oui, pour Sauber, ce qu'il faut rappeler, c'est que eux, en fait, en 2011, ils avaient eu un... Vous savez, en milieu de saison, il y avait eu un règlement qui allait interdire le diffuseur soufflé. Et donc, eux avaient fait une monoplace avec ça, faire des réglages avec une monoplace en diffuseur soufflé. Quand la FIA a dit qu'on veut juste limiter son usage, là, Sauber a dû refaire machine arrière. Et donc, elle a perdu beaucoup de temps. Ça lui a coûté presque sa deuxième partie de saison. Et c'est, vu que cette année, c'est totalement banni, je pense qu'on verra Sauber se battre pour la sixième place du championnat, contrairement à l'an passé où elle avait été complètement déposée par Force India en milieu de saison.
C'est vrai, c'est un peu la transition. Sauber jouait les gros points, puis ils ont dû se battre avec Toro en fin d'année. Ouais. Alors, dans les négatifs, Ferrari, c'est l'inconnu, c'est l'optimiste, et pour l'instant, c'est compliqué, il y a encore du travail. Ils ont encore pu faire de vrais relais assez intéressants. Hein. Ils ont roulé toute la journée aujourd'hui en dur avec NASA pour encore retrouver des points de repère et procéder, hein, pour continuer le défrichage de la monoplace. Si je puis dire. Pour Ferrari, c'est assez compliqué. Hein. Beaucoup de gens, hein, ont l'air assez sceptiques au niveau de la performance de la monoplace. On va voir ensemble un peu la vie de Sébastien Buemi sur cette semaine à Barcelone. Sébastien Buemi, un futur des équipes. Alors, pour lui, comme moi, il est d'accord. Red Bull et Force India, ça lui plaît. Donc, on est d'accord là-dessus, si je puis dire. Hamilton et Hülkenberg et donc la Red Bull ont vraiment bien apprécié. Et pour lui aussi, Ferrari n'a pas l'air en forme, n'a pas l'air compétitive. Hein, il dit que la Ferrari manquait encore de motricité, donc un gros souci d'équilibrage sur la voiture. Hein, c'est très compliqué, il y a justement énormément de temps encore à passer au niveau de la compréhension de la voiture avant de sur les relais de course pour s'intéresser à la performance. Alors, nous l'avons aussi, c'est l'aéro qui continue à poser problème. Donc forcément, c'est encore un souci important au niveau de la voiture. Donc voilà, Ferrari, eh ben, ça va pas encore fort, hein, même si Alonso, bon, il a fait des temps plus ou moins corrects à 5 dixièmes de Hülkenberg et à 8 dixièmes de Vettel lors de la première journée.
Après, c'est toujours le problème, hein, aux essais. On ne sait pas quel gap de pneus ils utilisent. Si maintenant, si Ferrari, par exemple, ils prennent que des pneus durs ou des pneus tendres, ou si les autres écuries, par exemple Williams ou même Force India utilisent des pneus beaucoup plus tendres, ça c'est encore un gros mystère. Hein. Nous, on n'est pas sur la piste, donc on ne peut pas connaître exactement les vraies gammes de pneus et si les gammes de pneus ils utilisent pour les courses, parce qu'en Espagne, il n'y a pas toutes les gammes de pneus. Et ça, c'est encore des questions qu'on doit se poser.
C'est vrai que il y a tellement de pour faire que si on est encore en retard, eh ben, ils commencent peut-être à retarder un peu sur leur programme. Lotus, forcément, c'est une déception. On va pas y revenir dessus, hein. Ce n'est pas leur faute pour Lotus, c'est un signe. Malheureusement pour eux, ils vont perdre beaucoup de temps, mais ils sont là, je le rappelle, lundi 27 février, à Silverstone en essai privé. Caterham et Marussia, bon, Marussia, c'est sur de 2011, mais Charles Piquet est le bon dernier. Timo Glock, par contre, l'a fait avant-dernier aujourd'hui devant Vitaly Petrov. Petrov, ils ont vraiment encore une compréhension, hein, sur sa Caterham, on y reviendra juste après. Bon, Marussia, pas de surprise. En attente de la nouvelle voiture qui arrivera en mars prochain à Barcelone. Chapi qui a cumulé plus de 200 tours, je vais faire le calcul en direct, 128-121, ça fait 220 tours, hein. C'est très très bon pour lui, il restera un dernier jour demain au français, hein, donc son dernier jour. On passe à Caterham, donc déception pour l'instant, il trouve ses dernières places, ce n'est pas forcément leur objectif primordial. Pour l'équipe britannique, fermée par Kovalainen et Vitaly Petrov. Bon, on va s'arrêter sur l'équipe. Caterham, bon, pour Kovalainen, forcément, c'est le grand leader de cette équipe. Et alors, on l'a pris pour le dernier, Vitaly Petkov a remplacé Yarno Trulli chez KTM. Mais ce qui est drôle, c'est que une ou deux semaines avant, eh ben, Trulli était presque confiant pour la saison 2012, qu'il avait un contrat qui lui permettait de poursuivre l'aventure avec l'équipe. Et on le sait, enfin, les contrats sont fragiles. Eh ben, ça n'a pas traîné pour Yarno Trulli qui a dû effectuer sa retraite anticipée, remplacée par Petkov et son argent, forcément. Messieurs, donc, alors, que faut-il en dire?
Dégoûté parce que personnellement je pense pas que Caterham est capable de faire ça, surtout que bon, Trulli avait déjà roulé à Jerez, donc je pensais que tout allait aller le mieux pour lui, excusez-moi. Oui, grosse déception. On est en train de tourner une page de l'histoire de la Formule 1, puisque maintenant il ne reste plus que de mémoire Schumacher et Pedro de la Rosa qui ont roulé durant les années 90.
C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Il n'y en a plus beaucoup, hein. Pareil que le truc, son portier. Et là, il reste plus que.
C'est encore une fois que, bah, il faut de l'argent pour faire de la Formule 1, quoi.
Ça, on le sait bien, et forcément, en train de. Donc, métier, même en karting, hein, je l'avais dit tout à l'heure, dès le karting, c'est vraiment très très important. Malheureusement, certains pilotes, on connaît des soucis actuellement. On pense à Tom Bisman, hein, qui a un talent indéniable, et l'argent qui manque pourrait lui fermer une porte presque obligatoire pour accéder à la F1, au GP2. C'est très compliqué pour lui.
Après, il y a d'autres catégories comme l'endurance. Très belle catégorie, d'ailleurs.
Voilà, donc, Vitaly Petkov en place. Yarno Trulli, j'ai fait un petit aparté, je les surprends peut-être nos amis consultants et auditeurs. Un petit mot, donc un petit hommage, on va rendre un hommage à Yarno Trulli, hein, bien sûr, qui nous a quittés, j'aime bien dire ça, mais il nous a quittés, bon, en Formule 1, hein, on se rassure, donc carrière riche en émotions. On va revenir rapidement sur quelques chiffres clés de sa carrière. Alors, tout d'abord, première question, ne trichez pas. En quelle année a-t-il commencé sa carrière et chez quelle équipe?
Je crois en 2000 avec... Oula, j'ai un doute entre Jordan et Prost Grand Prix.
Oula, tu n'es pas très loin. Hein. C'est très très loin pour le Trulli.
Michel,
vas-y.
1997.
C'est ça.
Ah ouais.
Curie Minardi.
C'est ça, ouais.
Voilà.
Ah, bon, complètement.
Voilà. Même très à côté, à l'extrémité.
Moi, je me souviens pas de le jeu F197.
Eh oui, moi aussi.
Et voilà, ouais. C'est de là que ça commence.
Mais il n'y a rien à changer, hein. C'est des écuries de bateau, en fond.
C'est ça, ouais. Notre ami Arnaud Trulli, citez-moi ce que différents constructeurs pour qui il a roulé.
Michel, Minardi,
oui.
Prost,
oui.
Dorin,
oui.
Ensuite Renault,
voilà.
Après Renault, il a fait Toyota,
c'est ça.
Et après, il a fait Lotus.
Et donc, il reste cette année à Jerez. Caterham, ça change de nom,
ouais,
c'est une nouvelle équipe. Hein.
Donc, Lotus.
Voilà, ça fait 16 équipes. Si on compte Lotus plus Caterham, absolument. Bon, combien de victoires ou fait-il?
Une, Monaco.
Voilà.
2004, voilà.
Voilà, la seule victoire. Et la victoire de notre ami Trulli. Dans sa carrière, c'était énormément.
Un combat à Olivier Panis, non? Olivier Panis n'a pas qu'une seule victoire, c'était à Monaco.
En 96, ouais, c'est ça. Plutôt qu'au Malaisie, au Canada 95, une victoire aussi. Par contre, citez-moi.
Tous ses équipiers, non?
Non, combien a-t-il fait de pole position? Pas plus dur.
Michel?
Vas-y.
3 pole positions?
Non.
Ah. Voilà. Attends, peut-être. Alex, 4, non?
Oui.
Je sais pas, ouais.
Alors, 4 pôles. Ouh, écho.
Ah, je sais qu'il y en a eu à Monaco en 2007. Voilà,
voilà donc ça c'est sûr.
Après, il n'y en a pas en 2003, là, je crois que c'est une bonne finale.
Non, pas en 2003. Bon, alors, il y a un Grand Prix qui fut la polémique hein, de ces dernières
années. Ah oui, oui, États-Unis 2005.
Ah, voilà. Ouais, c'est en polémique, c'est l'État. Reste 2.
Nouveau avec Toyota, je crois, au Japon.
Non, pas au Japon.
Ah non.
Avec Toyota, oui. Sur le tir de l'intro, des Rennes-Fan, Belgique 2004. Bonne réponse. Ah. Et il en manque un. Dernière pause, c'est la plus récente.
Ah oui, pareil.
Ok, mais...
2009.
Oui.
Bon. Il y avait même un doublé Toyota, le problème, c'est que par rapport au Brown, c'était bah, par rapport à Button qui s'était réveillé, je crois qu'il avait fini les deux voitures sur le podium, mais c'était Button qui avait gagné.
C'est Trulli 3ème, ouais. Et il bloque un peu plus loin. Bravo. Oui. Bien, 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 messieurs, vous êtes très performants. Antoine, si tu connais, n'hésite pas. Hein. C'est peut-être moi ta place de prix à notre Trulli.
Ah non, je connais pas un peu. Je sais pas trop, mais à part ça, je sais pas trop si c'est ici.
Et oui. Alors que Sébastien, notre ami suisse, est sur le chat, nous corrige. Bien sûr, il le dit bien. Alors, combien de podiums pour l'Italien?
Oula.
Je dirais 13.
Moins.
Bah, 10 plus.
11 podiums, bravo. Alors, pour le premier, c'est un Grand Prix qui fut mémorable.
Une victoire.
98, ça, non. C'était une victoire inattendue, un podium inattendu.
Renault 2005, non.
Non, 99.
Oh, oh, c'est un peu long, la Renault.
Oui, avec Prost. Alors, quel Grand Prix tu dois t'en souvenir, Michel. Ça, je m'en rassure.
Je dirais Grand Prix d'Europe.
Voilà. Qui avait gagné le podium, tu connais?
Ça, je sais plus. Herbert, non.
Voilà, Herbert, Trulli et Barry Flo.
Et voilà.
Frenten, Paul, Frenten.
Oula.
Et oui, ensuite nous avons sur Renault, 3 podiums sur Renault.
Donc le premier podium, je crois que c'était en 2005. Hein.
Alors,
Non,
bon, pour finir un peu moins, ça c'est vrai, ça c'est sûr, c'est normal. Chez Toyota, il a fait quand même une belle série quand même en 2005-2008 et 2009. En 2005 en Malaisie, derrière Alonso. À Bahreïn aussi, derrière Alonso aussi. Et en Espagne 2005, troisième, derrière Raikkonen et Alonso. France 2008, avec sa Toyota, derrière Massa et Raikkonen.
Il avait même voulu prendre un drapeau français, mais on lui en avait pas passé.
Ouais. Il y a eu un peu de venger de, on s'en souvient, hein, 4 ans auparavant, l'élection de Brian, ici même. Et en 2009, avec Toyota en Australie, hein, avec l'affaire du mensonge de Lewis Hamilton, Bahreïn 2009, la 3e place, et le Japon 2009, derrière Sébastien Vettel. Arnaud Trulli, grand pilote, mais malheureusement, hein, il avait quand même des sacrés coéquipiers à ses côtés. Et il a manqué beaucoup de chance. Des constructeurs pas forcément brillants, notamment surtout l'époque Toyota, qui a gaspillé beaucoup d'argent pour pas beaucoup de succès. Chez Renault, il est barré par Fernando Alonso, alors qu'il menait la barre à Jenson Button, avant l'arrivée de l'Espagnol. Alors qu'avant, bon, il a fait plusieurs petites études, Minardi, Jordan, Prost, c'est pas évident. Et il a révélé cette semaine qu'il avait reçu une note de Ferrari à un moment de Jean Todt. Il a précisé l'année. On peut penser que c'était en 2006, alors que Schumacher allait s'en aller.
Voilà, alors là, si j'étais lui, je me mordrais le doigt là.
Voilà, et justement, il avait refusé parce qu'il était sous contrat pour Toyota. Bah, ça a mal fini pour lui et l'équipe japonaise. Malheureusement.
Ouais, moi, j'étais lui. Ah non, c'est obligé que ce soit entre 2005 et 2008, parce qu'il est encore chanteur. Et encore en 2007.
Oui, en tout cas. Ça, c'était pas déjà en 1999 ou 2001, normalement.
Non, parce que ça aurait pu être en 2009 pour le remplacement de Felipe Massa, hein, plus bête, mais...
Ouais, mais c'est Dominique Kelly, à l'époque. Voilà pour notre ami Arnaud Trulli, un grand hommage rendu pour le grand champion italien. Voilà, donc, alors la retraite, on ne sait pas. Il a plusieurs opportunités encore, il ne les a pas dévoilées publiquement. On attendra les prochaines semaines, peut-être qu'il est en endurance, en IndyCar, en NASCAR. Pour l'instant, là, pour le point d'interrogation est toujours là.
Bah, il va prendre son pote barricade, alors.
Je crois des bruits de fond derrière, je crois que c'est Chris qui va effectuer son grand retour. merci d'avoir trouvé. Les infos à retenir de cette semaine, alors c'est très léger, parce que forcément, il y avait beaucoup plus d'infos concernant les essais. La principale info, ben, ça concerne la semaine prochaine à Barcelone. Ferrari et Red Bull ont reçu on établit un accord pour décaler leurs essais. Ce sera du 2 au 5 mars prochain, non du 1er au 4, initialement prévu pour les autres équipes. Donc c'est certainement pour avoir un jour de plus à l'usine avant la dernière séance, pour voir un peu quelques idées sur la monoplace. Et on s'approchera un peu plus de Melbourne à 13 jours. Donc c'est une bonne chose peut-être pour eux. On peut pas leur contredire leur choix. Bien sûr, hein, c'est eux qui décident. Donc voilà pour la F1, messieurs, est-ce que vous avez noté des choses? Parce que moi, personnellement, c'est assez calme quand même. À part les essais, hein, il n'y a pas grand-chose.
Ah oui, c'est assez calme. Hein. Encore une fois, il faut attendre l'Australie pour vraiment voir les performances des monoplaces. Donc, il faudrait. Le mieux, c'est de voir déjà demain, parce que je pense que demain, les écuries vont mettre la totale. Mettre moins
de. C'est plutôt Barcelone 2, hein.
Donc, ouais, ça aussi. En tout cas, demain, il y aura déjà des changements au niveau de la hiérarchie. Hein. Je crois qu'il y aura beaucoup de... Les top teams se montreront un petit peu plus qu'avant. Après, on verra. Hein.
Et on verra. Et on rappelle hein, qu'il n'y a que 300 essais puisqu'au Mugello, en mai prochain, en Italie, il y en aura un. C'est un nouveau choix de la FOTA qui existait encore. Et la FIA a un accord pour avoir des essais en plein milieu de la saison. Après les premiers Grands Prix asiatiques et océaniens. Melbourne, dans l'océan. Voilà pour la F1, chers amis auditeurs. Je pense qu'on n'a pas grand chose à dire et on va terminer l'émission sur la dernière partie. Bon, notre ami Simon est parti, mais je salue Tony Abdel, Sébastien, Redfan qui sont avec nous et tous les autres. Donc, Simon, on va terminer la partie sur quelques infos. Assez passionnante à suivre, alors que vous pouvez aller sur notre page Facebook, notre ami Damien qui est à Barcelone s'est amusé à mettre quelques photos assez sympas, vous irez le voir sur son profil, il aura mettre l'album à jour, donc il sera dans les prochaines semaines avec nous pour faire un petit point, un petit bilan de son aventure, comme moi bien sûr je ferai mon compte rendu de Barcelone la semaine prochaine, j'aurai la chance d'y aller le week-end prochain, je vous dirai.
Ah, mais toi, tu sais pas raconter, hein, c'est mieux raconter,
ouais. Je suis désolé. Non, j'espère avoir un pass, ça c'est un presque obligatoire pour moi, si je veux tenter des choses là-bas, en tout cas, je ne manquerai pas d'essayer d'en avoir un, et pourquoi pas ramener quelques infos croustillantes, des photos aussi, assez sympa, mais bon, j'y suis pas encore, il faut patienter une semaine, et ça va être bien long, malheureusement. Car j'ai très hâte d'y être. Si vous le voulez bien, messieurs, dames, chers auditeurs, auditrices, on termine l'émission par quelques infos monoplace. Une info intéressante, le GP2. Je sais que ça intéresse tout le monde ici, normalement, puisque c'est vraiment un championnat qu'on aime suivre. On s'en rappelle, Supernova avait quitté la discipline pour cause de soucis financiers, bien sûr. La 13e équipe a été remplacée par l'équipe Venezuela GP Lazarus. Comme l'indique son nom, elle est italienne. Et pas vénézuélienne, bon, c'est comme ça. Pour deux saisons, l'équipe sera là en 2012 et 2013. Bon, je vous rappelle un peu Supernova, c'était l'an dernier avec Feyruz Fozzi, le Malaisien, Luca Filippi et Adam Carroll, alors que Filippi était passé chez Colony et avait brillé en fin de saison. Cette équipe Lazarus avait roulé en auto-GP auparavant, donc elle effectue un pas en avant considérable en GP2 et aura un pilote titulaire, Fabrizio Cristiani. Il n'est pas très connu, il n'a fait que 3 meetings en 2010 en GP2, donc bon, c'est un peu un retour aux sources pour le pilote italien. Bon, cette équipe très jeune, je pense qu'elle va surtout commencer à prendre beaucoup hein, cette année, puis pourquoi pas en 2013, et faire une meilleure saison. Mais je le rappelle, les places coûtent cher. Hein, il ne reste plus beaucoup de places disponibles. On va dire trois volants, trois très très bons volants. Hein, objectivement, chez Racing Engineering, il reste une place. Bon, on espère que ce soit notre ami Nathaniel Berton, on le redit chaque semaine, mais il y a de fortes chances que ce soit lui. Bon, on espère avoir l'info dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours. Il resterait deux places chez Caterham Arden. Chez Caterham tout court. Caterham Arden, c'est Arden. Chez Caterham, l'an dernier, nous avions David Valsecchi et Luis Razzia. J'y arrive. L'an dernier, c'était comme une assez bonne équipe. Hein, Valsecchi avait gagné à Monaco l'an dernier. Donc le GP2, pour l'instant, c'est pas beaucoup d'annonces. On attend un peu, ça va bouger dans les prochains jours. Et à partir de mardi prochain, les essais à Jerez, à leur tour maintenant. Donc les premiers essais de la saison, je rappelle, ça commencera en Malaisie en même temps que la Formule 1. On a tous hâte hein, de voir cette saison de GP2. Pour l'instant, pas de Français, donc on pense à Berton et Tom Dillman qui sont les mieux placés pour y accéder. Et sur le chat tout à l'heure, Simon nous le disait, Nicolas Maroc, qui avait fait la pige à Abu Dhabi cet hiver, ne sera donc pas finalement en GP2. Hein. Il a commencé une nouvelle saison en endurance avec la toute nouvelle équipe de Sébastien Loeb Racing, avec l'équipe du champion des rallyes. Donc on va voir ce que ça va donner cette année. En endurance, donc Alex, tu seras chargé de nous suivre tout ça.
Ah oui, mais hélas, je suis vraiment triste, c'est qu'il n'y a pas Peugeot cette année. Ce sera peut-être pas bon, je pense que ce sera assez simple. Hein. Audi gagne presque toutes les courses, bah, au moins les 24 heures du Mans. Bon, peut-être après, il y aura les Toyota qui vont mêler leur grain de sel, mais bon, c'est leur première saison depuis leur retour. Ils viennent avec une hybride, une technologie qui est en train de se mettre en place, qu'on n'a pas encore vraiment développé dans cette compétition. Donc, va falloir attendre pour avoir des duels Toyota-Audi durant le premier championnat WEC. Mais bon, il y a Pescarolo et puis il y a les anciens pilotes de Peugeot qui y sont encore. Donc, on va les encourager chacun dans leur team. Hein.
Alors, tu seras là jeudi prochain. Tu sais pourquoi on va inviter deux pilote talentueux, je le rappelle, Tristan Vautier pour son aventure américaine, mais ce qui concerne un peu plus
le rêve américain.
Voilà, il va pouvoir nous parler un peu de cette vie assez atypique. Et Olivier Lombard qui devrait être avec nous aussi, ben, pilote à l'endurance, il fait Signatec Nissan avec le team de Bourges. Je salue Aurélie au passage, si elle m'écoute. Donc, nouvelle aventure pour Olivier Lombard. Il nous parlera de tout ça jeudi prochain. On va avoir une superbe émission. Donc, soyez à l'écoute.
Surtout, ce n'est pas n'importe qui. Vainqueur des 24 heures du Mans 2011 pour sa première participation.
En LMP2, ouais, c'est ça. Et ce week-end, le NASCAR a surveillé.
Daytona 500.
Voilà. Donc, Sébastien nous l'a précisé sur le chat. Je pense qu'on va essayer de suivre ça. Michel, qui aime le NASCAR, il aime quand ça se frotte. Donc Michel, tu vas certainement surveiller ça de très près. Hein.
Oui, en ce moment, bon, je regarde des vidéos sur YouTube, des dernières vidéos de NASCAR. Hein.
Bon, c'était bon, les crashs. Hein.
Ouais, c'est ce que j'aime le plus à la NASCAR, hein. c'est les crashs. Bon, il n'y a pas que ça, c'est sûr. Et ça met beaucoup de piment à la course.
Donc voilà, ce week-end. Et on va terminer par le GP3. Avant de terminer, bon, une info en World Series en Formule Renault 2.0. Cette semaine, on a les essais, aussi des essais privés. Donc, on pense notamment à notre ami Paul Louchatin, qui commence avec Tech One une nouvelle aventure, avec Tech One plutôt, qui vise aussi de cette année. Donc, je pense que les prochaines semaines, s'il le voudra, hein, il pourra revenir nous en parler et comment il se sent avant le début de la saison.
Donc là, il est en 3.5, c'est ça?
Non,
2.0 encore.
Il rempile et il vise le titre. Donc s'il gagne le titre, a priori, il aura de fortes chances de passer à l'étape du dessus.
Bah, il n'y a plus qu'à lui dire merde.
Ben voilà, absolument. On va terminer par le GP3. Une info de haute envergure. Hein, cette semaine, on a appris l'arrivée d'une fille en GP3 chez Trident Racing.
Oh là là.
Vicky Pieria, une Italienne. pas trop moche, oh, il faut le dire, mais le plus important, bon, c'est sur la piste, hein, messieurs, gardez votre testostérone au chaud, s'il vous plaît.
Je sens que cette saison GP3, je la suis.
Bon. Voilà, non mais donc Wikipédia, c'est une fille, donc c'est assez intéressant, hein, de voir un peu comment ça se passe du côté féminin. Est-ce que, j'ai une question à poser à Antoine, est-ce que tu as vu des filles, hein, est-ce que tu t'es battu contre des filles en karting?
Ouais, il y en a, bon, il y en a forcément beaucoup, beaucoup moins que des garçons. Mais de temps en temps, il y en a qui sont assez rapides. Mais il y en a pas énormément, donc forcément, les garçons dominent plus.
Et tu les laisses devant toi, hein, j'espère, il y a l'entrée exige.
Hein. Ah non, il n'y a pas de filles, il n'y a pas de garçons. Tiens.
Ah bah, quand le sport est là, hein, bien sûr. Il n'y a plus de sentiments. Alors oui, donc les filles, une fille, hein, Vicky Piria, elle est très jeune, donc bon, elle a le temps de voir venir, bien sûr. Elle a commencé les essais à Estoril cette semaine, donc quelques mots rapides aussi sur les engagés qui sont, bon, les plus connus, si je puis dire. On va commencer, tout d'abord, ça doit vous dire quelque chose, chez Lotus GP, hein, une triplette, enfin, qui n'est pas inconnue, Daniel Abt, qui était en F3, ces dernières années chez Lotus GP, Connor Daly, un Américain que j'ai sur Twitter, donc je suis un peu son actualité, Aro Vaiano, c'est un Finlandais très prometteur, donc il veut marcher dans les traces de Valtteri Bottas, hein, le champion sortant. Alors un des favoris, Mitch Evans, c'est un Néo-Zélandais, c'est le protégé de Mark Webber, qui est chez Arden, qui remplit donc chez Arden, qui visera le titre cette année. Nous avons notre Finlandais Mathias Lane, assez bon aussi, hein. Je vous dis des noms là qui peuvent, pourquoi pas, faire une saison assez correcte. Alors on a par contre un Chypriote, ça c'est une grosse nouveauté, je crois, Thio Elinas, un Chypriote sur la grille en DGP3, c'est pas assez drôle. Mais bon, s'il est bon, tant mieux pour lui. Le Suisse, Nico Müller, qui rempile chez Tech1 cette année, très très bon pilote. Donc Vicky Piria, l'Italienne, à surveiller bien sûr. Et Alex Brundle, le fils de Martin Brundle chez Carlin, comme coéquipier, il a Antonio Félix da Costa, le portugais, qui était à Abu Dhabi cet hiver avec Ocean Racing Technology. Et le hongrois Tamás Pálkis, qui remplit cette année. Donc ces noms que j'ai cités, c'est ceux qui sont le plus connus, hein, en GP3 cette année. Et qui étaient, il y en avait qui étaient aussi là l'an dernier. Donc les essais touristes, c'était sur 2 jours, en début de semaine. Tout simplement, et c'est Aaron Vaiano qui a signé le meilleur temps de la semaine en 1:30.466, le Finlandais, donc, à surveiller. Alors, les engagés officiels, pour l'instant, il en manque encore, hein, lors de ces stories, les équipes ont surtout testé certains pilotes pour voir un peu leurs aptitudes, bien sûr. Donc, il reste encore beaucoup de place en GP3. Et bon, alors, je ne peux pas en dire plus ce soir, parce que forcément, je ne connais pas plus les prétentions de chacun, mais ce qui est sûr, hein, c'est qu'on va encore avoir une saison de GP3 assez particulière, assez intéressante à voir. Et donc voilà, messieurs, je pense qu'on va essayer de suivre le GP3, si on peut le voir aussi, ça c'est important. Le GP3, le GP2, les World Series by Renault, on va essayer d'être le plus complet possible, de ramener le plus d'invités possible également. Ouais. Ça, c'est important. Et sur le chat, Sébastien nous précise un autre Suisse qui a 15 ans en GP3, Matteo Tuscher. Et Sébastien sera le porte-parole des Suisses. Il n'y a pas de souci, il sera bien là pour nous en faire parler. J'ai entendu que Chris voulait dire un petit mot.
Non, une petite question surtout à notre invité du soir, Antoine Hubert, puisqu'on parlait un peu des autres sports mécaniques. Toi, tu es un assidu de quel sport en tant que spectateur, Antoine?
Au niveau des sports mécaniques?
Entre autres, mais si tu as d'autres passions sportives, puisque bon, on est un peu en mode détente en fin d'émission.
Bah, oui, c'est oui, ça libre antenne là.
J'aime beaucoup forcément la Formule 1. Dès que je peux, je suis les Grands Prix.
Oh, ça c'est pas surprenant.
Non. Oula, mais j'aime aussi beaucoup le rallye parce que mon père en fait était pilote de rallye. Donc je suis aussi tous les rallyes de WRC principalement. Et aussi un peu l'endurance, mais un petit peu moins quand même. Principalement les 24 heures. Après j'accroche moins.
Et
bah,
si
cette année, c'est que des événements anniversaires. Il faut les suivre. Hein. 12 heures de Sebring, la 60e édition. Donc, c'était déjà pas mal. Donc, chaque anniversaire, cette saison, c'est une saison anniversaire. Donc, à ne pas manquer.
Ouais. J'ai essayé. Et outre les sports mécaniques, tu as d'autres passions sportives?
J'aime bien le sport en général. J'essaie de suivre un peu tous les sports. Dès que les équipes de France ont des grands rendez-vous, etc., je suis. J'aime bien le hand, le rugby, le foot, un peu tout.
Alors, il aime la RTS Sport.
Ouais. Ouais, parce qu'on a justement des émissions à thématiques sportives, dont notamment le Hand Day, qui est une des émissions les plus emblématiques. On reçoit chaque semaine ou presque un champion du monde français. Donc, enfin, champion du monde française, je dois plus dire ça. Enfin, j'ai pas dit champion du monde en titre, moi. Donc voilà. Non mais c'était intéressant justement voilà d'avoir ces avis là, Mathieu. Si tu peux permettre, Mathieu, que je garde un tout petit peu l'antenne.
Je t'en prie.
Est-ce que tu me permets? Parce que tu sais de quoi je vais parler, évidemment, c'est le sondage du jour. Là.
Ah ouais, ça chauffe.
Ah bah ça chauffe, et surtout, c'est assez étonnant comme les résultats. On est à 17 personnes qui pensent que effectivement Mercedes peut inquiéter les Ferrari et les McLaren cette année-ci. Et à contrario, ils ne sont que 7 à penser que Mercedes ne n'inquiétera pas Ferrari et les McLaren. A noter quelques réponses assez assez neutres, hein, donc il y a quelques sans-avis. Et alors, Alex, il y a Juju Benard, qui dit moquer. Est-ce que tu pourras lui demander un petit peu...
C'est un sans-avis, ouais.
Ah, c'est un sans-avis, d'accord. Donc voilà,
un peu personnalisé, quoi.
Donc, est-ce que nos auditeurs sont inquiets pour Ferrari et McLaren? On peut le penser, ou est-ce qu'ils sont optimistes plutôt pour Mercedes? Il y a un peu des deux, sans doute, ce soir, sur RTS Radio.
Eh bien, je les aime, hein, les 17 personnes qui ont dit oui, ben, on y croit, hein, le retour du Kaiser et puis de Nico Rosberg, hein, sa première victoire, parce que là, il commence un peu à ramer à la Heidfeld et à la Button. Bon, faut lui espérer qu'il va pas attendre plus de 130. Mais on est où, là, au niveau de ses courses, parce que je sais qu'il a passé le cap des 100 courses sans gagner un Grand Prix. Donc, il faudrait peut-être avoir la voiture pour gagner, là, parce que ça commence un peu à traîner.
Et il y a une carrière à la Button, je trouve. Mais c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, et mais à la limite, s'il est champion du monde dans quelques années, on n'en parlera plus.
Ah ouais, pourquoi pas. Et après, il va aller damer le pion à Sébastien Vettel. Ou à Michael Schumacher.
Ah, pourquoi pas, même
quoique
si...
Quoique, c'est déjà en train de faire.
Oui. Mais bon. Et juste, je précise que je fais partie des 7 qui ont voté non, mais qui espèrent pour Schumi que évidemment, Mercedes soit au top niveau. Hein. Ce n'est pas parce qu'on vote non qu'on n'aime pas spécialement les Mercedes, Alex. Hein. Rassure-toi.
D'accord, c'est bon, ne vous inquiétez.
Je te rassure.
Eh oui, mesdames et messieurs, la fin du temps se rapproche. Je pense que là, je n'ai plus rien à dire. Alors, je pense que je vais demander justement à Antoine tout d'abord un petit mot. Jeudi prochain, Tristan Vautier, Olivier Lombard, ils étaient au Masters Kart de Bercy. Est-ce que, je sais pas, pour terminer l'émission, hein, tu peux un peu nous en reparler de ces Masters Kart. Est-ce que tu as envie d'être là en 2012, les 9 et 10 décembre 2012, les Masters Kart à Bercy? Je pense que j'y serai aussi. Est-ce que, Antoine, tu as envie d'y retourner?
Pour l'instant, j'y pense pas trop. J'ai surtout pensé à faire une bonne saison. Et puis après, si la saison va bien, normalement, j'y serai convié. Et ouais, j'ai gardé un bon souvenir, même s'il y avait eu des petits problèmes avec les cartes, etc. Mais bon, le show, tout ça, c'est vraiment à part. Et juste pour ça, j'aimerais bien y retourner quand même.
Est-ce que tu veux faire mieux que la troisième place, hein, du dimanche? C'est vraiment sympa de t'avoir vu dans les grands écrans. Et c'est possible, hein. C'est clair que c'est une configuration assez spéciale, mais bon, c'est surtout pour le show, le spectacle. C'est clair, dans une enceinte comme Bercy, on peut pas faire un circuit comme à Locarno, bien sûr, hein, évidemment.
Et on a quand même de belles batailles.
Oui, on en a eu, ça c'est vrai.
On a peut-être un peu plus de spectacles à Bercy qu'à Valence.
À Valence, c'est quoi?
Valencia, Grand Prix d'Europe.
Ah oui, oui, ça, c'est clair que pour s'être ennuyé, je crois qu'on n'y a pas manqué. Eh ben, je crois qu'on va aller clôturer l'émission. Messieurs, je vais laisser donc le mot de la fin à notre invité qui est très brillant ce soir. Donc, avant ça, je l'invite à revenir quand il le veut. Hein, mais avant ça, Antoine, te souhaite donc forcément bon début de saison qui démarrera en avril prochain. Tu laisses travailler à l'école, forcément. et surtout eh ben, de se préparer donc à fond avec Formula K, nouvelle équipe, nouvelle couleur, hein, et surtout on espère que tu vas briller cette année, on compte sur toi surtout.
Merci beaucoup Mathieu, merci à toute l'équipe du Motor Show et aux auditeurs, c'est toujours un plaisir, enfin bon, même si c'est que la deuxième fois, j'apprécie beaucoup venir dans l'émission, donc quand vous voulez, je reviens, et puis voilà, bonne soirée.
Alors, je sais que Michel ça va l'intéresser. Oui. Michel et Antoine, je crois que vous allez vous donner vos pseudos PSN en privé, parce que je sens que j'ai l'impression que les batailles de F1 2011 vont sévir entre vous deux. Je sais que ça va être chaud, parce que moi, j'ai pas voulu accepter les demandes d'Antoine, parce que je sais que je vais perdre. Donc, je sais que Michel va être plutôt intéressé. Donc voilà, je vais dire, vous verrez ça en privé.
S'il veut, il n'y a pas de souci. Bon, je vais pas me la péter, je suis bon, mais je suis pas
excellent. Michel, s'il te plaît. Sois, c'est ridicule, tu es très très bon.
Bah, participe à ma course, là, au Grand Prix d'Australie, une semaine avant le Grand Prix d'Australie, course 100%, toutes les difficultés.
Ouais.
Faut que tu t'inscrives, là. Ouais, ouais. On t'attend, là.
Ouais, problème.
Ouais,
faut juste me dire la date, et si je suis là, pas de problème.
Et Antoine, puisqu'on est dans les dédicaces, je suppose qu'on les poursuivra peut-être un peu en off, Alex, juste après. Mathieu, tu m'as un peu oublié, puisque il se trouve qu'on a une tradition depuis le début de l'année.
Et je t'en prie, vas-y.
Ah, évidemment. Et je vais te demander un tout petit service, Antoine, puisque depuis le début de l'année, on a fait ça avec Yvan Muller et tous les autres invités. On a décidé d'instaurer des jingles vocaux, c'est-à-dire qu'à chaque victoire d'un de nos invités, on passera ce jingle-là, donc c'est un petit peu un porte-bonheur ou un porte-merde, si tu préfères. Donc on espère évidemment passer ce jingle-là le plus souvent. Et est-ce que tu pourrais me faire plaisir d'enregistrer ce petit extrait pour moi? Alors la phrase, c'est « Ici Antoine Hubert, place au karting sur RTS ». Est-ce que tu peux me faire ce plaisir-là?
Maintenant, là?
Si tu veux, oui.
Pas de problème, ouais. Tout de suite, bon, voilà.
Tu veux que je te répète la phrase? Alors, la phrase, c'est « Ici Antoine Hubert, place au karting sur RTS ».
Ici Antoine Hubert, place au karting sur RTS.
Merci, et on espère évidemment ressortir ce jingle le plus souvent possible, parce que ça voudra dire que tu as gagné beaucoup de courses, et c'est tout le mal que je te souhaite et qu'on te souhaite, Antoine. Ouais.